18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bienvenue à toutes et à tous sur Europe 1. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous adresse tous mes vœux. Une très belle année sur Europe 1. On compte sur vous. C'est parti donc pour 2 heures d'infos, d'analyse, de débat. C'est votre grand journal du soir. Dans un instant, toute l'actualité avec vous, Isabelle Millet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
À la une de l'actualité ce soir, le gouvernement et les syndicats vont-ils négocier une sortie de crise demain? Peut-on l'espérer? On y vient dans un instant parce qu'à la SNCF, la trêve est terminée pour l'UNSA ferroviaire. On l'a appris tout à l'heure, le deuxième syndicat de la SNCF avait décidé de faire une pause. Mais ça, c'était avant Noël. C'est fini depuis ce soir. Je vous recevrai à 18h20 Didier Matisse, secrétaire général de l'UNSA ferroviaire. 18h30, des grandes voix version 2020 en pleine forme et informées dans ce studio. On parlera ensemble de ces négociations cruciales, mais aussi de l'escalade entre l'Iran et les États-Unis. Et puis soyez avec nous à 19h30. On file vers Las Vegas où débute le salon de la techno. Quel sera notre monde demain? Les innovations, on va tout vous dire. En avant-première, assurément, c'est votre grand journal du soir. C'est parti jusqu'à 20h.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Nous avons de toute façon toujours porté la conviction suivante, que c'est à travers le dialogue social que nous pourrions parvenir à un compromis.
Compromis, c'est le mot du jour dans la bouche de la porte-parole du gouvernement. En tout cas, mais quel compromis exactement? C'est toute la question alors que les partenaires sociaux sont reçus demain.
En attendant une issue peut-être à ce conflit qui s'éternise, les Français ont peur de manquer d'essence désormais. À partir de demain et pour 4 jours, les raffineries seront bloquées. Mouvement de panique dans les stations-service.
Je sais que c'est cette inquiétude qui crée la pénurie, mais j'ai pas le choix. En cette période de grève, je peux qu'utiliser ma voiture et sans carburant, je peux rien faire.
L'opération Justice Morte est lancée. Les avocats durcissent le ton. Eux aussi refusent d'intégrer le régime universel.
Aux États-Unis, le cri du cœur des centaines de femmes réunies pour l'ouverture du procès d'Harvey Weinstein.
Dear Harvey, cher Harvey, today, aujourd'hui, la justice se penche sur un super prédateur. Toi.
Le producteur qui est arrivé avec un déambulateur tout à l'heure pour cette première journée d'audience.
Et une rentrée à haut risque pour nos organismes. Grippe et gastro sont en embuscade.
Et puis 34 nominations, mais seulement 2 statuettes. Oui. Netflix a fait un flop Golden Globes. Et puis la Bourse de Paris a fini dans le rouge, -0,51%, toujours préoccupée par la situation au Moyen-Orient.
Et du côté du ciel, comment ça se passe? Bonsoir Anissa.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Et bien demain, c'est une journée très grise et nuageuse sur les 3/4 nord du pays. Beaucoup plus ensoleillée au sud. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Isabelle Millet.
Et pour beaucoup d'entre vous, c'était la reprise aujourd'hui après les vacances. De retour, reposé, prêt à retrouver les bus bondés, les métros absents, les trains au compte-gouttes. La parenthèse des congés de fin d'année est bel et bien terminée.
Et oui, parenthèse refermée aussi pour le gouvernement et les syndicats qui se retrouvent demain pour reprendre les négociations alors que 2 journées de manifestations interprofessionnelles et de grève sont d'ores et déjà prévues, jeudi et samedi. On se souvient que lors de ses vœux aux Français, Emmanuel Macron avait enjoint son Premier ministre à trouver un compromis rapide avec les syndicats qui le veulent.
Alors, faut-il y voir un signe d'ouverture? En tout cas, ce terme « compromis » a de nouveau été utilisé ce matin par la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye.
Nous avons de toute façon toujours porté la conviction suivante, que c'est à travers le dialogue social que nous pourrions parvenir à un compromis, et c'est à cela que le président de la République a appelé avec le gouvernement.
Voilà ce qu'a dit ce matin donc la porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres. Bonsoir Mickaël Darmon.
Bonsoir.
Alors dites-nous Mickaël, dans quel état d'esprit se trouve le gouvernement à la veille de ces nouvelles négociations? La sortie de crise est-elle à portée de main?
En fait, tout se déroule selon un schéma établi depuis la fin de l'année. Le président, on s'en souvient, a donné une obligation de résultat et indiqué lors de ses vœux la direction au gouvernement, la possibilité de négocier des systèmes dérogatoires liés à des tâches pénibles, tout en maintenant donc l'intention d'inscrire une mesure d'équilibre financier du système de retraite. La CFDT, on s'en souvient, est restée silencieuse jusqu'à hier soir. Laurent Berger, sur France 2, a évoqué en réponse une conférence de financement fixée à une date ultérieure. Traduire, d'accord pour les statuts dérogatoires en échange, on parlera du financement, mais plus tard, dans une scénographie de conférence sociale qui, au fond, a déjà des allures un petit peu de tableau final. Mais est-ce que ce sera le happy end? Ça, on peut en douter parce qu'il faudra rassurer également la base de la CFDT. Et puis, rassurer la CFDT, ça n'est pas rassurer la CGT et les syndicats qui continuent à vouloir faire grève donc, dans les transports pour retirer le projet. À l'Élysée, de ce point de vue-là, on mise sur l'enlisement du conflit, tout en pariant sur le compromis et le dialogue social.
Merci beaucoup, Mickaël Darmon. On va y revenir longuement avec les grandes voix dès 18h30. 19h10, Aurélie Herbemont reçoit Olivier Grégoire, député La République En Marche de Paris. Et puis, on vous le disait, puisque à l'UNSA, ça coince, on va y revenir d'ailleurs dans le détail, parce que fini la trêve.
Et oui, cet après-midi, l'UNSA Ferroviaire a décidé effectivement de mettre fin à sa trêve dans la grève à la SNCF. L'UNSA qui avait décidé, le 19 décembre, vous le savez, une pause dans ce mouvement pour les congés de fin d'année.
Et oui, secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire, Didier Matisse, qui sera justement mon invité dans ce studio dans quelques instants.
En tout cas, en attendant l'issue de ces négociations, les Français qui ont déjà un mal fou à trouver des transports en commun se demandent s'ils vont devoir également se priver de leur voiture. Le blocage des raffineries à partir de demain et jusqu'à vendredi va-t-il entraîner des pénuries ?
La CGT Chimie a prévu 4 jours de mobilisation pour mettre la pression sur le gouvernement. Alors oui, les automobilistes risquent de manquer d'essence, mais pas forcément à cause de ce blocage.
Oui, parce que c'est un grand classique. Quand on pense qu'on va peut-être manquer, eh bien on se rue à la station de service la plus proche, même si le réservoir est encore à moitié plein. Et c'est ce que vous avez pu constater d'ailleurs, Sadia Sissaïd, dans des stations-service de la capitale.
Alors, eh bien oui, effectivement, je me suis rendue dans 4 stations différentes en Ile-de-France et j'ai fait le même constat partout. Une longue queue d'automobilistes qui prennent leurs précautions, comme Mohamed qui a lu sur les réseaux sociaux que les blocages de raffinerie commenceraient demain.
On ne sait jamais, vaut mieux être sûr d'avoir son plein aujourd'hui. Je sais que c'est cette inquiétude qui crée la pénurie, mais je n'ai pas le choix. En cette période de grève, je ne peux qu'utiliser ma voiture et sans carburant, je ne peux rien faire.
Mais le problème, c'est que certains automobilistes viennent même faire des réserves. C'est ce que m'a raconté Ramzi, gérant d'une de ces stations-service.
Les gens, ils ont peur. Il y a beaucoup de panique et ça ajoute au problème. Ça veut dire que les gens, quand ils viennent pour mettre de l'essence, il met de l'essence et il remplit même des jerrycans. Et ça fait plus de problèmes sur les problèmes. Quoi.
Et selon nos informations, sachez que dès ce matin, 93 stations-service étaient en pénurie d'au moins un carburant. 93 stations sur 11 000 au total en France.
Le reportage de Sadia Sissaïd. Notez que Jean-Luc Mélenchon était aujourd'hui à la raffinerie de Grandpuy en Seine-et-Marne aux côtés des grévistes. Il l'a dit tôt ou tard, même plutôt tôt, le gouvernement va lâcher le leader de la France insoumise qui sera sur Europe 1 demain matin à 8h15, invité de Sonia Mabrouk dans la matinale de Mathieu Béliard.
Et puis il y a une autre profession qui choisit de durcir le mouvement, ce sont les avocats. Ils estiment en effet qu'il n'y a pas de raison que le gouvernement ait ouvert une brèche sur le régime des danseurs de l'opéra par exemple, ou bien des policiers, mais pas sur le leur. Des avocats qui veulent à tout prix garder leur spécificité, leur régime autonome, comme le confirme le bâtonnier de Marseille.
Si nous décidons aujourd'hui de sortir des prétoires, c'est qu'à un moment donné, la situation n'est pas tenable. Le régime autonome des avocats est un régime qui fonctionne parfaitement. Donc il n'y a aucune raison de changer quelque chose qui fonctionne et qui, tous les ans, verse aux autres régimes 100 millions d'euros. Il y a 70 000 avocats en France et en moyenne, chaque avocat verse annuellement 1 400 euros pour les autres régimes. Le régime que nous avons est un régime qui ne justifie aucune modification. Nous serons le 9 janvier dans la rue aux côtés des autres professions parce que nous aussi, on estime que cette réforme n'est pas normale, qu'elle n'est pas menée intelligemment, c'est-à-dire une augmentation du taux des cotisations pour une baisse des pensions retraite avec pour incidence finale la fermeture d'à peu près 40% de cabinets d'avocats. Qui va perdre dans tout ça ? Qui ? Le citoyen. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'au final, il y aura des déserts judiciaires et juridiques.
Le bâtonnier de Marseille, Yann Arnoux, Polac au micro Europe 1 de Nathalie Chevance et Stéphane Place du bureau Europe 1 de Bordeaux nous signale lui que là-bas, les avocats ont voté, ça y est, d'ores et déjà, une semaine de grève. C'est un procès, Isabelle, au retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein qui s'est ouvert aujourd'hui à New York.
Ex-producteur star d'Hollywood, prédateur sexuel, son cas a permis, vous le savez, de briser un tabou. Il est à l'origine du mouvement MeToo. Xavier Yvon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 et c'est un Weinstein très affaibli qui est apparu à l'audience.
Oui, l'ancien producteur tout-puissant, habitué à défiler la tête haute sur les tapis rouges d'Hollywood, est arrivé appuyé sur un déambulateur encadré de ses avocats. Récemment opéré du dos, Harvey Weinstein, en costume gris, a péniblement monté quelques marches pour rentrer dans la Cour suprême de l'État de New York, sous le feu des appareils photo, des caméras du monde entier et sous le regard de certaines de ses accusatrices, dont les actrices Rosanna Arquette et Rose McGowan, qui affirment avoir été violées par le producteur il y a plus de 20 ans. Elle a ensuite lu une lettre à son intention face au tribunal.
Dear Harvey, cher Harvey, aujourd'hui, la justice se penche sur un super prédateur. Toi, Je suis venue ici pour me tenir aux côtés de ces autres femmes que tu as aussi blessées. Qu'on soit parvenu à ce moment de justice, c'est bouleversant. Ce procès a une telle signification. Aujourd'hui, c'est un jour pour nous.
Et à l'intérieur du tribunal, c'était un jour pour la procédure. Première audience technique, comme prévu, elle a à peine duré 1h30. À partir de demain, commencera la sélection des jurés, tâche ardue et essentielle qui devrait prendre 2 semaines. Ensuite seulement, le procès tant attendu pourra vraiment commencer.
Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 à New York.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et Isabelle Mie. Je fais un mix. À suivre dans votre journal de 18h, l'Australie qui continue de brûler, c'est terrible.
Et puis grippe et gastro, le combo de cette rentrée. Lavez-vous bien les mains.
Vous écoutez Europe 1, votre grand journal du soir jusqu'à 20h. 18h10 sur Europe 1, la suite du journal avec Isabelle Millet, Nathalie Lévy.
En Australie, pas d'amélioration sur le front des incendies. Et s'il y a un mot qui nous vient à l'esprit en voyant ces images terribles, c'est réellement celui de l'impuissance.
Oui, impuissance de ces milliers de pompiers qui luttent depuis des semaines. Bonsoir Pauline Jacquot.
Bonsoir.
Qui luttent et qui n'arrivent pas à endiguer le monster, comme on l'appelle là-bas. 5 millions d'hectares sont déjà partis en fumée.
Oui, et des milliers de personnes ont été évacuées, notamment sur la côte est du pays. Une mesure exceptionnelle aujourd'hui. L'armée est venue en renfort. 3000 réservistes sur la zone pour distribuer de l'eau, des vivres, rétablir l'électricité. Après un week-end catastrophique, le bilan humain s'alourdit de jour en jour. Le Premier ministre australien Scott Morrison s'est adressé aujourd'hui à la population.
24 personnes sont mortes à travers le pays. 18 d'entre elles en Nouvelle-Galles du Sud, 3 dans l'État de Victoria, 3 en Australie du Sud et 2 personnes sont toujours portées disparues. Pour ceux qui ont perdu des proches, pour ceux qui ont tout perdu, nous vous réaffirmons notre soutien. Nous serons à vos côtés pour reconstruire et panser les plaies.
1500 maisons ont été détruites par les flammes et 500 millions d'animaux ont été tués dans ces incendies depuis le début du mois de septembre.
Bon, mais est-ce qu'il y a des chances pour que ça s'améliore ?
Alors, pas d'après les autorités. L'Australie n'est pas encore entrée dans la haute saison des incendies. Il pourrait encore continuer 4 à 5 semaines, des mois même, disent certains spécialistes. Les pompiers ont déjà prévenu. Face à l'ampleur des feux, nous ne pouvons plus éteindre les flammes, simplement les orienter de manière à ce qu'elles fassent le moins de dégâts possible.
Merci Pauline Jacquot. Et les organisateurs de l'Open d'Australie de tennis s'interrogent. Va-t-il falloir renoncer au tournoi ou bien le reporter ? Novak Djokovic estime qu'il faut envisager un report si ces incendies menacent la santé des joueurs.
On suit de près, bien entendu, cette situation. On est en Iran maintenant, où des milliers de personnes ont accompagné aujourd'hui à Téhéran le cercueil du général Soleimani, tué dans une attaque de drones des États-Unis en Irak. Une foule qui, comme les jours précédents, scandait mort à l'Amérique.
L'Iran n'aura jamais l'arme nucléaire. Le tweet est écrit en lettres capitales avec un point d'exclamation. Et il est signé Donald Trump. Réaction à la décision de l'Iran qui a annoncé hier s'affranchir de toutes les limites fixées par l'accord de Paris. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne vont se réunir en urgence vendredi à Bruxelles.
Il est 18h12 sur Europe 1, la suite du journal Isabelle Mie et Nathalie Lévy.
La gastro, bah oui, bien elle. Elle a peut-être gâché vos vacances, mais ceux qui y ont échappé ne devraient pas crier victoire trop vite. Hein.
Et oui, parce que l'épidémie est à son pic, talonnée par sa cousine, la grippe, qui arrive à grands pas. Bonsoir Virginie Salmen.
Bonsoir.
Dans l'ordre, la gastro donc, qui a déjà mis KO des centaines de milliers de Français.
Oui, près de 200 000 personnes sont allées consulter pour une gastro au cours de la semaine dernière. Ce sont les derniers chiffres, ce qui veut dire évidemment que beaucoup plus de gens encore ont été malades. Alors toute la France est désormais touchée par l'épidémie. Vous avez peut-être entendu parler ce week-end des gastro causées par les huîtres. Oui. Elles contenaient l'un des virus, le norovirus. La pêche et la commercialisation ont été interdites jusqu'à nouvel ordre, notamment dans le Morbihan, dans la zone d'Irel en Ille-et-Vilaine et dans la baie du Mont-Saint-Michel. Alors méfiez-vous, si vous avez la gastro, on est encore contagieux jusqu'à 48 heures après la fin des symptômes, notamment par le biais de tous les objets qu'on touche.
Effectivement, c'est important. La gastro donc, et puis la grippe qui, ça y est, arrive.
Oui, alors pour la grippe, l'épidémie est vraiment en train de démarrer. On est dans ce qu'on appelle la phase pré-épidémique dans 6 régions sur 13, notamment l'Île-de-France, PACA et le Centre-Val de Loire, mais les autres ne vont pas y échapper. Avec la rentrée des classes, la propagation du virus s'accélère. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que la grippe commence à chaque fois dans les écoles. Un mot du vaccin pour ceux qui le souhaiteraient. On peut encore se faire vacciner, même si c'est un peu juste. L'épidémie est déjà là. Or, il faut quand même 15 jours, une fois la piqûre faite, pour être bien protégée.
Merci beaucoup Virginie Salmen.
Voilà, les duettistes, un mauvais cadeau du début d'année. Retour Isabelle maintenant sur cette soirée, cette nuit des Golden Globes hier à Hollywood.
Et oui, on retiendra en particulier le triomphe de Quentin Tarantino et de Sam Mendes pour Once Upon a Time in in Hollywood et pour 1917, film européen, un drame historique qui sera sur les écrans français à partir du 15 janvier.
Et on retiendra aussi que cette année 2020 commence plutôt mal hein, pour Netflix. Le mastodonte de la vidéo à la demande par abonnement aurait théoriquement dû effectuer une radia. Bonsoir Mathieu Charrier.
Bonsoir.
Bah non, c'est pas franchement ce qui s'est passé. Netflix est reparti quasi bredouille.
Eh oui, rendez-vous compte, à Netflix, ils étaient nommés 34 fois ultra favoris, ouais, avec notamment le dernier film de Martin Scorsese, The Irishman, ou la nouvelle réalisation du très branché Noah Baumbach, Marriage Story, nommé 34 fois. Netflix est reparti avec 2 statuettes seulement, contre 5 l'année dernière. Même Ricky Gervais, le maître de cérémonie, ironisait au début de la soirée, je le cite, « Plus personne ne va au cinéma, plus personne ne regarde la télévision, tout le monde regarde Netflix. Cette cérémonie devrait se résumer à moi, disant « Bien joué Netflix, vous avez tout gagné ». Sauf que non. Ce qui veut dire 2 choses. Déjà, peut-être que les votants pour les Golden Globes ont ainsi voulu rappeler, dans le sillage notamment du Festival de Cannes, que Netflix, c'est très bien, il crée de bonnes choses, mais ce n'est pas du cinéma diffusé sur grand écran, et donc ça ne doit pas concourir dans les cérémonies dédiées au cinéma. Et puis ça montre aussi que la stratégie de Netflix est un peu mise à mal, parce qu'ils repartent quasi bredouille avec leur branche série, ce qui est le fondement de leur existence, et idem pour le cinéma. Alors que depuis quelques années, ils investissent beaucoup pour remporter des prix, justement, du prestige, et toucher ainsi de nouveaux abonnés, et que ça ne marche pas. D'ailleurs, Netflix a reconnu pour la première fois il y a quelques mois avoir perdu des abonnés aux États-Unis, 130 000 de moins, alors que Disney lance sa plateforme Disney+, alors qu'Amazon Prime se renforce, qu'Apple est aussi dans la course. Effectivement, ça se complique pour Netflix.
Merci Mathieu Charrier.
Douche froide, hein, ouais. Véritable douche froide. Merci beaucoup à vous Isabelle Millet. On se retrouve tout à l'heure 18h30 avec un nouveau journal. En attendant, Anissa, du côté du ciel, très très gris demain.
Oui, effectivement Nathalie, sur une grande partie de la France demain, c'est un ciel couvert avec un vrai plafond de nuages hein, au-dessus de nos têtes. Alors, les chanceux se trouvent dans les Pyrénées. Si vous nous écoutez dans le Languedoc-Roussillon, la région PACA, les Alpes et la Corse, eh bien demain, c'est un ciel très lumineux au programme pour vous. Sur la Corse, quelques gouttes sont quand même possibles dans l'après-midi. Dans le sud, le Mistral et la Tramontane vont se renforcer. Prudence hein, demain, avec des rafales jusqu'à 90 km/h sur le reste du pays. En Bretagne, sur les Pays de la Loire, le Nivernais, le Jura, les brouillards seront très nombreux demain matin. Prudence si vous devez prendre la route. Sur la moitié nord, vous l'avez compris, le ciel reste nuageux sur une grande partie de la journée. Les températures, elles sont en légère baisse. Nous avons des températures de saison maintenant. Moins 3 à 8 degrés demain matin. 0 à Besançon et Clermont-Ferrand. 4 pour Paris. Dans la journée, 5 à 16 de Langres à Perpignan. 11 degrés pour Paris.
Europe 1.
Dans un instant, dans votre grand journal du soir, votre invité Nathalie Lévy.
Et oui, ils avaient marqué une pause avant Noël. Ils viennent, il y a quelques minutes, de mettre fin à cette trêve à la SNCF. Le secrétaire général de l'UNSA ferroviaire, Didier Matisse, me rejoint en studio dans 2 minutes, juste avant la reprise des négociations demain au ministère du Travail avec le gouvernement.
Votre grand journal du soir, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1 avec Nathalie Lévy. Votre grand journal du soir, c'est tous les jours jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy. Le deuxième syndicat de la SNCF vient de rompre sa trêve décidée juste avant Noël. Nathalie, ce soir, vous recevez Didier Matisse, le secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire.
Oui, il va arriver dans un instant, Didier Matisse, et il va nous expliquer eh bien, pourquoi, tout à coup, juste avant la reprise des négociations au ministère du Travail demain, eh bien, cette pause, cette trêve qui durait depuis le 19 décembre, désormais est obsolète. L'annonce date d'il y a quelques minutes maintenant. Didier Matisse va prendre place dans ce studio. Que faut-il attendre d'ailleurs des négociations de demain, de ce nouveau round ? Que faut-il attendre aussi de la journée du 9 et la journée du 11 ? Là, ce seront des journées de mobilisation. On va voir quelle ampleur, parce qu'aussi, les sondages parlent aujourd'hui des Français qui sont un peu moins dans le soutien. 53% d'opinion favorable. Les Français sont un peu moins dans le soutien de ces mobilisations. C'est 4 mois de points qu'il y a 15 jours. Comment observe-t-on cela du côté de l'UNSA ? On va poser la question ce soir à notre invité Didier Matisse. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue dans ce studio. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire. Didier Matisse, un peu avant de vous accueillir, on a appris, alors que vous étiez dans cette trêve, dans cette pause, depuis le 19 décembre, soit depuis 15 jours, eh bien, qu'il n'y était plus là, l'heure de la trêve, plus l'heure de la pause. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Il faut rappeler déjà le contexte pour lequel on était rentré dans cette pause. Donc, il y avait plusieurs raisons. La première, c'est qu'il n'y avait aucune négociation qui se tenait donc, pendant la période des vacances de Noël. Donc, rester en grève, ça ne servait à rien. Ça permettait également aux cheminots de se refaire une santé financière pour justement préparer cette rentrée qui débute à partir de demain. Mmh. Et surtout, permettre aux Françaises et aux Français de pouvoir rejoindre leur famille et de profiter des fêtes de fin d'année comme il se doit.
Ok, on entend, les raisons sont là et bien entendu c'était très bienvenu, mais les négociations, elles n'ont pas repris encore. Ça démarre demain. Pourquoi ne pas attendre d'avoir la feuille de route, ne pas avoir les éléments concrets, ne pas avoir les réponses à vos questions ou à vos revendications pour décider, du coup, d'annuler cette trêve ?
Bah écoutez, nos revendications datent d'il y a plus de 4 mois maintenant. Mmh. Nous avons été reçus par le gouvernement lors de 4 réunions au mois de novembre, mmh. donc avant de rentrer dans le conflit. Et ouais. c'était justement fait pour ne pas rentrer dans le conflit et obtenir donc des réponses concrètes à nos revendications. La réponse du gouvernement, ça a été donc zéro réponse au mois de novembre. Et ils nous ont donc laissé rentrer en grève à partir du 5 décembre.
Oui, mais
et
là,
au bout de 15 jours seulement, on a eu des avancées ouais. par rapport à ce que nous réclamions.
Mais j'entends donc, Didier Matisse, mais là, les négociations, elles reprennent demain, vous le savez. Ça va se jouer au ministère du Travail. Tout le monde est, j'allais dire, là, présent, a priori, au rendez-vous. Déjà, est-ce que Laurent Escure, secrétaire général de l'UNSA, sera présent demain à cette réunion au ministère du Travail ?
Bien entendu.
Il sera là.
L'UNSA ne pratique jamais la politique de la chaise vide.
Non, je vous disais ça parce que Philippe Martinez pour la CGT disait qu'il réfléchissait encore. Ça, c'était hier soir. Mais puisque Laurent UNSA sera là, Laurent Escure sera là, puisque vous serez présent autour de cette table, pourquoi ne pas attendre les réponses demain pour dire oui ou non si cette trêve a lieu d'être ou plus ?
Ben, je viens de vous l'expliquer. Au mois de novembre, nous avons donc négocié et le gouvernement n'a rien voulu savoir. Lui ne voulait pas négocier. Il attendait de voir pour savoir.
Je comprends, mais alors pourquoi y aller demain alors ? Puisque finalement vous n'attendez plus rien. Pourquoi aller demain à cette réunion ? Si vous dites on avait déjà tout avant, c'est pas la peine. On sait très bien, on est déjà fixé. Nos revendications, elles ont été formulées. On n'a pas eu les réponses adaptées. Donc pourquoi y aller demain dans ce cas ?
Parce que demain, il y a plusieurs enjeux, notamment l'âge pivot qui n'était pas prévu au départ. Et donc, cet âge pivot, on est vent debout contre ce taquet à 64 ans.
Toujours, c'est un totem ?
Ah bien sûr, c'est un totem et la pénibilité en est un également, de même que l'aménagement de fin de carrière.
Sur la pénibilité, vous êtes entendu, il y a déjà 2 points sur les 4 qui sont accordés.
Oui, mais ça fait que 50%.
Oui, mais c'est déjà 50%. On ne peut pas imaginer que vous puissiez, après les discussions de demain, obtenir sur la pénibilité les bonnes réponses aux bonnes questions et que du coup, sur l'âge pivot, on se laisse encore un peu de temps pour en discuter. Si vous obtenez sur la pénibilité, sur les carrières longues, est-ce qu'il y a moyen de discuter ?
On y va justement pour négocier et pour discuter, mais surtout pour négocier. Le problème en France, c'est que sans bras de fer au travers d'une grève, on n'obtient rien. Le mois de novembre a été dévastateur. Là, c'était la fenêtre de tir que le gouvernement ne devait pas louper. Il a préféré attendre de faire le bras de fer. Et la problématique, c'est plus les gens sont dans le conflit, plus ils se radicalisent et plus il est difficile après pour les gens d'arrêter une grève quand vous avez perdu plus d'un mois de salaire.
Alors, sur quel point précisément, demain et dans les prochaines étapes de négociation, êtes-vous, j'allais dire, optimiste ? Sur la pénibilité, là, normalement, vous avez des réponses qui peuvent aller dans votre sens. Sur la pénibilité, sur des revendications aussi, sur l'aménagement de fin de carrière ?
Bah oui, tous ces trois thèmes-là, donc l'âge d'équilibre, la pénibilité et l'aménagement de fin de carrière sont 3 points essentiels. Mais au niveau de l'UNSA ferroviaire, il y a aussi également les points de revendication sur le stock où on a demandé à ce que l'ensemble des cheminots à statut ne soit pas touché par la réforme par points.
Ça veut dire quoi ? Ça, c'est une autre ligne rouge ? C'est comme l'âge pivot ? C'est un autre totem ?
Ben, c'est un autre totem, étant donné que l'Opéra de Paris a obtenu satisfaction sur ce domaine-là. Il n'y a pas de raison que la SNCF n'en bénéficie pas, étant donné en plus que notre régime spécial est en extinction depuis le 31 décembre 2019. On n'embauche plus au statut à la SNCF.
Donc si je vous comprends bien, Didier Matisse, à ce stade, vous mettez fin à cette trêve parce qu'il y avait la trêve des confiseurs et que vous n'avez pas voulu pénaliser aussi les Français ni même les cheminots. Demain, reprise des négociations, on le sait, le 9 et le 11, journée de mobilisation interprofessionnelle. Qu'est-ce que vous dites là ? Vous dites, ben voilà, on est reparti pour un tour. Le 9 et le 11, on sera nombreux dans la rue et on va continuer à débrayer ?
La balle est dans le camp du gouvernement, c'est à lui à faire les propositions concrètes et adaptées à nos revendications. Et si elles sont satisfaisantes, à ce moment-là, on sortira du conflit.
Mais comment peuvent-elles être satisfaisantes alors à ce stade ? Ça veut dire renoncer à l'âge pivot, ça c'est non négociable, c'est ce que vous...
Oui, Le taux d'employabilité chez les 55-65 est inférieur à 30%. Vouloir retarder de 2 ans l'employabilité de ces personnes-là qui déjà aujourd'hui n'ont pas de travail est complètement...
Mais quand même un dernier point, le soutien des Français il s'érode, le taux des grévistes à la SNCF aujourd'hui il n'est plus que de 6,3% contre 55% en début de mouvement. Vous espérez encore remobiliser derrière vous et encore pénaliser les Français alors que les chiffres parlent d'eux-mêmes?
Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a toujours quand même une majorité de Français qui nous soutiennent.
Mais moins de grévistes, beaucoup moins.
On est passé de 55 à 6. On avait appelé à une pause, donc la pause a été effective pour justement pouvoir se remobiliser à partir de cette semaine en se refaisant une santé financière.
Donc ça veut dire le 9 et le 11, vous donnez rendez-vous aux Français dans la rue ?
Tout dépend. Si les réponses au niveau des réunions qui auront lieu à partir de demain vont dans notre sens, à ce moment-là, on arrêtera la grève.
Merci beaucoup en tout cas d'être venu Didier Matisse dans ce studio ce soir sur Europe 1. Merci à vous.
Europe 1.
À suivre dans votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Cette question des retraites, évidemment, cette semaine cruciale, on va y revenir avec les grandes voix. D'abord, c'est le rappel des titres, bien sûr. Et puis, j'accueillerai ensuite dans ce studio Charles Villeneuve, Gérard Carreiro et Roselyne Fèvre de France 24. Ils seront là pour démarrer cette année ensemble.
Et vous pouvez, bien sûr, vous aussi débattre et poser toutes vos questions avec les grandes voix. Ça se passe au 39-21 en direct dès maintenant. Votre grand journal du soir, c'est tous les jours jusqu'à 20h. Il est 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Votre rappel des titres, Isabelle Millet.
Durcissement, enlisement ou assouplissement, compromis, suggère le gouvernement, alors que les négociations reprennent demain et que la CFDT a fait des propositions qui pourraient peut-être permettre une sortie de crise. Côté trafic, la circulation restera perturbée demain, avec toutefois 3 TGV sur 4 qui devraient circuler. Trafic normal sur Paris-Lille et quasi normal sur Lyon et sur Marseille. 6 TER sur 10, 1 Transilien sur 2 et 2 Intercités sur 5. À la RATP, aucune ligne ne sera totalement fermée, mais la plupart ne seront que partiellement ouvertes. Plus de 600 millions d'euros, c'est le manque à gagner pour la SNCF depuis le début du mouvement de grève contre la réforme des retraites. La responsabilité de l'administration reconnue dans le suicide de Christine Renon, c'est cette directrice d'école de Seine-Saint-Denis qui avait dénoncé dans une lettre ses conditions de travail. Et puis une semaine après, on commence à y voir un peu plus clair sur l'évasion de Carlos Ghosn. On savait qu'il avait pris un jet privé pour rejoindre la Turquie, puis le Liban. On découvre que dans sa fuite, l'ancien patron de Renault a également pris un train pour rejoindre Osaka.
Merci beaucoup Isabelle Millet, on vous retrouve tout à l'heure. Et Anissa, du côté du temps, une vraie journée d'hiver demain ?
Oui, effectivement, un temps très gris sur les trois quarts nord de la France demain avec un plafond de nuages gris très épais. Soyez prudents, demain matin, beaucoup de brouillard doublé de nuages bas qui pourront gêner la visibilité si vous prenez la route. Le soleil va briller au sud demain, des Pyrénées jusqu'à la Côte d'Azur. Les températures, elles sont de saison, moins 3 à 8 degrés demain matin, 5 à 16 demain après-midi avec 11 degrés sur la capitale.
Europe 1.
Et c'est l'heure du débat des grandes voix sur Europe 1. Nathalie Lévy avec vous autour de la table. Charles Villeneuve, Gérard Carreiro et Roselyne Fèvre, chef du service politique de France 24.
Bienvenue les grandes voix, meilleurs vœux à vous. Merci. Ravie de vous retrouver.
Meilleurs vœux à vous.
Bonne année. Et bonne année à nos auditeurs qui sont ravis de vous retrouver chaque soir de la semaine de 18h30 à 19h en direct. Les grandes voix, évidemment, on se regarde encore une fois cette semaine autour. On se retrouve encore une fois autour de cette réforme des retraites, ces négociations qui n'en finissent plus. On a terminé l'année là-dessus, on redémarre l'année là-dessus parce que demain, gros rendez-vous au ministère du Travail, autour d'abord de Édouard Philippe et puis ensuite de Muriel Pénicaud qui va entrer dans la danse, la ministre du Travail. Alors, comment on observe ça? On va démarrer avec vous, Gérard Carreiro. Cette semaine, elle est cruciale. C'est la semaine de tous les possibles, de tous les dangers, qu'on le dit.
Ça fait quelques fois qu'on a dit dans ces 33 derniers jours que c'était un moment crucial. Mais là, il semble que c'est un moment un peu plus crucial que d'habitude, parce qu'on a vu quand même, on a vu au cours de la journée, en fait depuis hier soir, depuis le passage de Laurent Berger à France 2, on a vu effectivement s'esquisser en pointillé ce qui pourrait être un compromis sur ce qui était jusqu'à présent, depuis 33 jours, la grosse pierre d'achoppement qui était les 64 ans, l'âge pivot. Alors, Berger disant à la fois, l'âge pivot reste pour moi
un totem
absolument dont on ne veut pas, mais en même temps, on devrait déconnecter l'âge pivot du reste de la réforme et renvoyer ça à une discussion. Et à partir de là, on a vu ce matin, comme si c'était tout près d'avance, ah oui. les ministres, les uns après les autres, le maire, etc., dire « Ah, mais tout ça, c'est très bien, il tend la main, il faut prendre cette main qu'on nous tend, et puis on a vu le président de l'Assemblée faire des propositions. » Tout ça allant dans le même sens, c'est-à-dire, on voit ce qui pourrait être un compromis possible, demain ou après-demain, entre le pouvoir d'un côté et les syndicats dits modérés depuis le début. Ça pourrait être sur cette base qu'effectivement il y a une déconnexion. Dans le, peut-être, si ça marche, dans le projet de loi, il n'y aurait plus vraiment l'âge pivot, mais il y aurait quand même le renvoi pour le financement. Bon, voilà. Bon, c'est ça le compromis possible.
On divise pour assurer ses arrières. Jamais le compromis ne m'a semblé aussi proche. C'est effectivement Bruno Le Maire qui le disait ce matin sur France Inter. D'ailleurs, ils l'ont tous dit, le mot compromis. Oui. Sibeth Ndiaye, tout le monde.
Il saute sur l'occasion, parce qu'en fait, en vérité, il entrebâille la porte. Il fait plus que l'entrebâiller, Laurent Berger, parce qu'il reste effectivement arc-bouté sur les 64 ans, mais c'est la première fois qu'il reconnaît qu'il faut se poser la question du financement. Alors qu'avant, il se basait sur le premier rapport du COR, qui, pour le coup, disait qu'il n'y avait pas de problème financier. C'est le deuxième, celui de novembre, qui a été commandé par le Premier ministre, qui l'a changé, la trajectoire du gouvernement, et qui, dans le fond, Édouard Philippe s'est dit « je vais faire d'une pierre deux coups », c'est-à-dire une réforme systémique et une réforme financière. Donc, Berger entrebâille cette porte, et rappelons que, franchement, il était... C'était pas gagné.
C'était pas gagné.
Et les Français, c'est vrai, commencent à basculer, on le voit bien, dans une forme d'interrogation. C'est vrai que les Parisiens, en tout cas, en ont.
Les Franciliens. C'est ça. Eh oui, Charles Villeneuve, les Franciliens en ont évidemment marre. Mais le soutien, il reste là. On est passé de 57% à 53%. Ça reste quand même une grosse majorité de Français, enfin, en tout cas, une majorité de Français à soutenir. Ce mouvement. On voit bien que les trains repartent. On voit bien aussi qu'il y a un peu plus de métro. Je vais y arriver. De métro sur les rails. On n'y est pas encore. Et puis vous avez entendu du côté de l'UNSA, on avait arrêté la trêve parce que c'était la trêve des confiseurs. Mais là, c'est pas parce qu'on négocie demain que on poursuit.
Mais c'est vrai que la grande grève. Celle qu'on entend, qui mobilise, etc., s'essouffle quand même, indéniablement, évidemment, moins dans la RATP, à la SNCF surtout. La CGT cheminot de là est quand même toujours arc-boutée sur ses positions. On le voit très bien avec Martinez, dont on se demande d'ailleurs s'il est plus prisonnier de la CGT cheminot qu'il n'est libre en tant que secrétaire général. Je n'ai pas d'avis définitif. Mais moi, la question que je me pose, j'ai écouté attentivement mes camarades là, mais je dis, mais est-ce que. Si vraiment le président, enfin le Premier ministre et surtout le président de la République qui a impulsé ce compromis à rapide qu'il a réclamé le soir.
Qu'il leur a demandé même une obligation de résultat rapidement.
Et s'il peut saisir l'offre de Berger qui est de renvoyer donc la gestion des finances à une conférence ultérieure, sans désavouer le Premier ministre, qui a fait, rappelons-nous, depuis le départ de l'âge pivot, vraiment l'un des points forts de la réforme, tel que lui l'imagine et veut la conduire jusqu'au bout, s'il cède, moi je dirais que son électorat de droite, qui est quand même l'un des socles, et pas le seul, mais l'un des socles de son élection, notamment plus européenne que présidentielle, mais déjà à la présidentielle, moi je trouve que autant en 2017, l'atout de Emmanuel Macron était Marine Le Pen. Autant en 2022, l'atout de Marine Le Pen sera de retrouver Emmanuel Macron.
Oui, mais qu'il faut faire, c'est justement faire sortir l'âge pivot de 64 ans.
C'est la parade,
tout en
peut-être.
Le gardant.
Voilà. En fait,
comme objectif final, quand même. Mais ça, c'est difficile. C'est un petit peu un tour de passe-passe.
Exactement, c'est une fin.
Parce que, voilà. Oui, mais en même temps, je suis prêt à parier que l'âge pivot tel que ne sera pas dans l'écriture du projet de loi présenté le 20.
Âge d'équilibre, déjà. On s'arrête une seconde, mais je vous sens vraiment très en poids.
Très chaud, très chaud.
Évidemment.
Moi, je vous ai jamais vu vous arrêter une seconde. Jamais.
C'est promis, on vient dans 2-3 alors.
Et vous pouvez effectivement vous aussi poser vos questions aux grandes voix. N'hésitez pas, ça se passe au 39-21 ou sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix pour débattre ce soir. Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Roselyne Febvre, chef du service politique de France 24. Et toutes vos questions en direct au 39-21.
Et nos auditeurs ont retrouvé effectivement le chemin d'Europe 1. Bienvenue à vous, Alain. Bonsoir. Vous nous appelez de la région parisienne. Voilà, meilleurs voeux à vous. Vous êtes dans le 78, donc impacté évidemment par les mouvements depuis un mois. Et vous dites stop, vous, j'imagine.
Ben oui, écoutez, je pense que on n'en peut plus là maintenant. Donc, je pense que il faut, comme toujours, faut savoir terminer une grève, savoir finir un mouvement. Mais moi, ma question serait plutôt, je voudrais savoir ce que pensent les grandes voix de l'affirmation du président qui dit et de toute façon derrière, je continue à réformer. Va-t-il le faire ?
Bah, tout dépend de l'âge pivot, j'allais dire.
Non. Il n'y a pas que ça.
La crédibilité à réformer. Elle passe par cette loi. Si cette loi finit par passer avec l'âge pivot,
c'est ça, avec
l'âge pivot dedans, alors que quand même, au jour du dernier sondage, 66% sont opposés à l'âge pivot, 2/3 des Français sont opposés. S'il arrive à la faire passer quand même, oui, ça, alors je réponds à notre auditeur, il me semble que sa capacité à réformer le pays reste... Voilà. Entière.
Si,
mais s'il est obligé
de transformer, trouver une sortie... Si ça s'appelle âge d'équilibre déjà, est-ce qu'on y voit toujours aussi clair, ça change
rien. Les gens ne sont pas fous. Tout s'est organisé autour de ça. S'il n'arrive pas à le faire passer, eh bien ça sera d'une certaine manière une façon de reculer. Et du coup, la crédibilité à réformer le pays sera largement amoindrie.
Alors ça, c'est vrai. Tu as raison là-dessus. Mais sincèrement... là, je l'ai dit, je me répète, s'il cède, la droite en tiendra compte, indéniablement.
Aussi, oui.
Mais surtout, si tu veux, c'est quand même une réforme qui va s'avérer coûteuse, non financée, avec toutes les concessions qu'il a déjà faites, et qui ont rendu opaque, je dirais même quasiment incompréhensible, cette réforme. Et ça aussi, peut-être va-t-il garder, si tu veux... Sa signature initiale, qui est celle du réformiste. Et d'ailleurs, en même temps, il sous-entend qu'il va continuer d'autres réformes aussi.
La dépendance.
Oui. Alors, mais c'est vrai qu'en même temps, s'il recule sur celle-là, qui est quand même la mère des réformes, cette identité-là va être atténuée, en tout cas atteinte.
Et Roselyne Febvre,
oui, s'il y arrive, je dirais, sans mauvais jeu, c'est le roi de la jungle. Mais parce que là, il y arriverait sans froisser la CFDT. Et n'oubliez pas quand même que l'acte 1 d'Emmanuel Macron, c'était les syndicats sont des ralentisseurs, ce sont des vieux ustensiles dont on n'a plus besoin. L'acte 2, c'est je discute, je remets dans le jeu tous les syndicats, je suis le nouveau Emmanuel Macron de l'acte 2. Et puis, ça satisfait aussi une partie. D'abord, on le voit au gouvernement, de ceux qui viennent de la gauche, comme Richard Ferrand, qui n'est pas insensible à la CFDT, et à ce réformisme et à cette social-démocratie. Et puis, effectivement, comme Charles le disait aussi, cette droite qui vient s'ancrer chez Emmanuel Macron et qui a besoin de...
Voilà Alain, l'autorité. Vous avez vos réponses de la part des grandes voix. La question qui va avec quand même, c'est que le 9 et le 11, les syndicats continuent d'appeler à descendre dans la rue, mobilisation interprofessionnelle voulue. Si la CFDT obtient un gain de cause demain, si la formulation est suffisamment ambiguë, en tout cas pour laisser entendre qu'elle a gain de cause,
il reste la CGT.
Des autres, voilà.
Il reste la CGT.
Les autres ont une revendication absolue, on la connaît.
Oui,
de toute façon, soit FO et CGT, c'est d'abord le préalable, c'est que la réforme entière soit retirée, qu'on reste en l'état, même si on aura déjà obtenu, parce qu'ils ont obtenu les cheminots,
la
RATP, absolument. Ils ont obtenu des avancées. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est une loi quand même qui est en train de devenir non seulement incompréhensible, mais extrêmement coûteuse.
S'il y a deux syndicats sur les cinq ou six, on peut dire que le pari audacieux est gagné.
Et cadre, etc., c'est sûr.
Mais je crains que la CGT, à un moment, se coupe en deux, en réalité. Oui. Il restera les radicaux.
Les puristes,
Je me demande si Martinez n'est pas de ceux-là, d'ailleurs, et ceux qui veulent arrêter, parce qu'ils pensent à leur fin de mois. Oui. Donc, il y a peut-être aussi un risque de violence, et puis une grève qui va continuer, bon an, mal an, avec un trafic peut-être quasi normal, avec des opérations coup de poing, ou des opérations comme on en a vu ces derniers temps. Ça risque comme ça de finir un peu... comme ça, avec de temps en temps.
Mais parce que l'Élysée mise quand même aussi, d'une certaine manière, sur le pourrissement. On ne va pas se mentir. Parce qu'il voit bien, Emmanuel Macron, que les trains repartent. Là, on est à 1 sur 2, 1 sur 3, selon les lignes, etc.
Oui, c'est pour ça que la stratégie de ne rien avoir fait pendant Noël s'avère, dans le fond, une bonne stratégie. Et on disait toujours, mais qu'est-ce qu'ils font ? Mais quand même, les Franciliens en ont marre, les Parisiens, les Français aussi, parce qu'il y a sur les trains à Noël, etc. Donc, si c'est un pari gagné, j'avoue qu'on pourra dire que c'était une bonne stratégie, puisque ce pourrissement, oui, in fine, aura fonctionné.
Il peut y avoir énormément de monde dans la rue, et encore plus éventuellement, et un peu des taches d'huile vers les raffineries. Il y a des éléments pour l'instant qui demeurent, point d'interrogation.
Moi, je crois qu'il y a, tu as quand même, on ne peut pas exclure, Gérard, le danger de la guérilla sociale.
Oui, absolument. On ne peut pas l'exclure. C'est bien ce que je dis. C'est pas gagné, là. Faut pas, ceux qui pensent que ce soir, que dans une semaine, on retrouve les transports quasiment normaux, ou dans 15 jours, ceux-là, peut-être, on les tromperait en disant ça.
Parce que vous l'avez dit, il y a les raffineries qui vont peut-être entrer dans le jeu avec la fédération CGT qui a appelé d'ores et déjà à un blocage à partir de demain pour 4 jours. Jean-Luc Mélenchon qui sera demain matin au micro de Sonia Mabrouk, on l'a entendu, très en pointe aussi. Emmanuel Macron croit que les gens vont se résigner, mais lui, il est derrière pour continuer à les chauffer à blanc. On en reparle dans un petit instant, les grandes voix. À tout de suite.
Et la suite de votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est dans un instant et jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix comme chaque soir avec autour de vous. Ce soir, Nathalie Lévy, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Roselyne Fèvre, chef du service politique de France 24.
Et on va regarder ce qui se passe en Iran, si vous le voulez bien, avec des milliers de personnes qui ont accompagné aujourd'hui à Téhéran le cercueil du général Soleimani tué dans une attaque de drone des États-Unis en Irak. Une foule d'ailleurs qui scandait mort à l'Amérique, c'est pas le premier jour. L'Iran n'aura jamais l'arme nucléaire. Le tweet est écrit en lettres capitales avec un point d'exclamation. Il est signé de Donald Trump. Une fois qu'on a dit ça, où en est-on dans cette crise-là qui se joue sous nos yeux et qui peut prendre des proportions considérables?
On est dans une logique de guerre. Je ne sais pas Charles est d'accord avec moi, mais on est dans une logique de guerre.
Il faut jamais oublier à qui on a affaire. Les Perses, je dis les Perses, évidemment, ils ont décidé de s'appeler à tort, à mon avis, l'Iran. Mais les Perses et la Perse est un pays expansionniste. On l'a vu d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas seulement en Iran, ils sont en Irak, ils sont en Syrie, ils sont au Liban. Bon, et ce qui s'est passé avec l'assassinat, de manière préparée sur le plan du renseignement de main de maître, il faut aussi le souligner, à Bagdad, il fallait savoir, vous savez, quand Qassem Soleimani se déplace dans des cortèges extrêmement discrets, secrets, dont le point de départ est vraiment un secret d'État, c'est quasiment le numéro 2 du régime, il ne faut pas l'oublier. Et donc l'assassinat par drone est sous-tendu par des renseignements extrêmement précis au sol. Cela étant, ils vous ont envoyé déjà un premier message, les obsèques. Les obsèques depuis Khomeini, depuis la mort de Khomeini, depuis 1979, on n'a jamais vu une manifestation aussi dense, aussi nombreuse. Plus d'un million de personnes dans la rue, c'est le premier message aux Occidentaux et surtout aux Américains. Ils vont, de manière très froide, préparer la riposte. Et elle aura lieu, la riposte. Simplement, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, le traumatisme des Américains qu'ils n'ont jamais oublié. Je parle là sous le contrôle de Gérard, qui connaît bien les États-Unis, le peuple américain, et ils n'ont jamais oublié la prise d'otage de l'ambassade américaine en 1979. Bon, et cette prise d'otage a coûté la réélection de Jimmy Carter. C'est une épée de Damoclès. Et il est très vraisemblable que ça va servir de modèle dans leur réflexion de riposte, si vous voulez, et de contre-offensive par rapport à l'assassinat de Soleimani.
Et j'enchaîne, si vous me permettez, cher consoeur, du même coup. Ce qui a coûté la présidence à Carter peut permettre une réélection extrêmement brillante, si j'ose dire, brillante. Dans un climat comme ça, ce n'est pas brillant, mais une réélection facile de Trump. Et je pense que dans la tête de Trump, il y a la chose suivante. Un, il va y avoir la riposte iranienne que décrivait Charles contre, alors je ne sais pas où et comment, mais contre des militaires américains.
Des ponts, il ne faut pas non plus que les Iraniens ne veulent pas couper tous les ponts, les Iraniens.
Oui, les Iraniens, en tout cas, de toute façon, leur régime était contesté de l'intérieur exsangues avec les sanctions américaines. Et là, la guerre leur permet, vous venez de le dire, de retrouver sous l'étiquette de leur nationalisme l'unité du pays.
C'est un rebondissement
Un rebondissement pour eux. Et pour Trump, il sait que la mémoire longue des Américains, et ça, je me souviens encore de l'été dernier d'avoir parlé avec des gens de la rue, etc., le jour où Trump, après des représailles contre des Américains qui feront des morts américains, le jour où Trump décidera de bombarder, de pas tuer un seul général, même si c'est le plus éminent, mais décidera de taper, par exemple, une des usines atomiques où on prépare effectivement l'uranium de demain, le jour où il fera ça, peut-être avec l'aide des Israéliens éventuellement, eh bien ce jour-là, il aura 80% des Américains derrière lui et on sera à quelques mois des élections.
Et voilà. Et Donald Trump s'est préparé. Il l'a dit d'ailleurs. Il se prépare en fait. Il sait très bien qu'il y aura cette
tripote. Oui, mais c'est une voie périlleuse pour les deux. Oui. C'est une voie périlleuse pour Donald Trump qui a choisi en quelque sorte la stratégie de rupture. Et n'oublions pas que tout cela part quand même de lorsqu'il a déchiré l'accord sur le nucléaire, parce que dans le fond, il ne fait pas confiance au régime de Téhéran. Donc tout part de là quand même, parce qu'effectivement, il asphyxie l'Iran, qui ne peut plus exporter son pétrole. L'Iran prend un risque aussi, c'est de s'attaquer à plus fort que lui, puisque on a entendu Donald Trump qui essaie de dissuader et qui a dit il y a quelques jours. Vous vous en souvenez, je ne sais plus quand, il a dit « Mais moi, j'ai acheté quand même 2 000 milliards de dollars de nouveaux matériels de défense et je vais leur balancer dessus. » Donc aujourd'hui, c'est prendre le risque. Est-ce que l'Iran peut prendre le risque, en réalité, d'affronter la plus grande armée du monde, qui a une puissance de feu, qui a une puissance de renseignement qui est absolument énorme.
Aidé par le pays qui a le plus travaillé sur l'Iran système de recherche nucléaire, Israël.
Alors, est-ce qu'ils vont toucher au site militaire américain ? Parce que là, s'ils touchent à ça, c'est toucher le Saint-des-Saints. Donc, la riposte est immédiate.
Oui, mais
alors, est-ce qu'ils peuvent attaquer de manière plus... les alliés, l'Arabie Saoudite...
Peut-être une attaque vers les alliés, c'est quand même ce qu'on entend beaucoup.
Ils ont, si vous voulez, des appuis assez importants, que ce soit en Irak, même si en Irak, ça remue pas mal contre l'influence iranienne aussi, il ne faut pas l'oublier. Ils ont la Syrie, ils ont le Liban. Donc il y a des cibles, si vous voulez, notamment américaines, ne serait-ce que diplomatiques. Mais rappelez-vous une chose. En 1980, il y a eu le conflit Irak-Iran. Et nous, la France, nous avions pris parti, Charles Hernu à l'époque, Pierre Mauroy, Premier ministre, de livrer des 155 à grande cadence de tir à l'Irak, et plus des super étendards qui avaient décollé d'ailleurs du Clémenceau qui était au large de Beyrouth. Eh bien, nous avons eu une mesure de rétorsion, c'était la série d'attentats du 4 septembre 86 au 17 septembre Tati 86, exécutés, si vous voulez, par notamment des Tunisiens recrutés par les Iraniens, l'exogène venant du Hezbollah de Beyrouth, etc. Et ça avait fait pas mal de victimes. Ouais. Vous vous souvenez que l'attentat de la rue de Rennes, Tati, est resté l'attentat qui a fait le plus de victimes pendant un certain temps.
Il n'empêche qu'en termes purement militaires, la puissance américaine aujourd'hui est capable effectivement de détruire un certain nombre. D'ailleurs, la menace de Trump sur les 52, c'est le nombre des otages américains. Pas par hasard. Donc, cette menace-là, effectivement, destruction. Vous imaginez effectivement d'un raid aérien ou par tous les moyens, en tout cas modernes, dont dispose l'Amérique, de pouvoir détruire la capacité, par exemple, l'essentiel. Parce que depuis des années, on sait à peu près où sont les principaux sites, centres, ne serait-ce que ceux où les experts sont allés.
Non, mais j'entends bien ce que tu dis, Gérard, mais on va s'arrêter là. L'action. Il y aura une mesure de rétorsion.
Il y aura une mesure de rétorsion.
Oui, il y aura une mesure de rétorsion, je suis
d'accord.
Et
il y a évidemment une crainte importante aujourd'hui aussi du côté d'Israël, parce qu'ils l'ont dit, l'Iran, ils ont prévenu. Ils ont dit, vous avez tweeté que vous attaqueriez 52 sites, nous, on attaquera Haïfa, Israël, Tel Aviv,
et
on réduira
mondiale,
ça en poussière. Oui. On en reparle, évidemment, un dossier à suivre avec vous. Merci beaucoup, Rosine Fèvre, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou. Merci à vous.
Europe 1. À suivre, Nathalie Lévy, dans votre grand journal du soir.
C'est le journal de 19h dans un instant de Isabelle Millet, à la une de l'actualité. Ce soir, on revient sur cet état d'esprit des syndicats la veille de cette nouvelle réunion avec le Premier ministre demain.
Vous écoutez Nathalie Lévy, c'est votre grand journal du soir et c'est jusqu'à 20h sur Europe 1.
Jusqu'à 20h sur Europe 1, vous écoutez Nathalie Lévy. La suite du programme, Nathalie ?
Je vous livre tout. L'interview politique, c'est 19h10. Aurélie Herbemont dans ce studio. Son invité, Olivier Grégoire, député La République En Marche de Paris. 19h20 demain. Mais oui, demain en 2020. Qu'est-ce que cela donne dans le monde, en France, dans nos vies ? C'est sur Europe 1. 19h30, on continue de regarder vers le futur. On vous emmène carrément à Las Vegas pour l'ouverture du plus grand salon de l'innovation au monde. Nous y serons en direct pour scruter toutes les nouveautés et les technologies qui vont changer nos vies cette année. 19h45, de la culture. On va parler d'un cinéaste et pas des moindres, Monsieur Jean-Luc Godard. La Cinémathèque lui consacre une rétrospective. Mais d'abord, Anissa ?
Les montagnes.
Eh oui.
La météo des neiges, effectivement. Alors, on fait le tour des massifs, hein, avec dans les Alpes, à l'Alpe d'Huez, un temps ensoleillé demain avec quelques passages nuageux. Il fera 3 degrés demain après-midi et la neige est prévue pour vendredi. Dans le massif central, au Lioran, pas de chute de neige prévue demain. Il y a peu de neige, hein, au Lioran cette année et le ciel sera nuageux toute la journée. Dans les Pyrénées, à Font-Romeu, de belles éclaircies. Pas de neige, elle sera prévue pour vendredi. Et 7 degrés demain après-midi, il fait très doux dans les Pyrénées. Dans le Jura, à Métabier, des éclaircies. Demain, attention au brouillard le matin. 1 degré en haut des pistes. Et la neige, là aussi, arrivera vendredi. Vous écoutez votre grand journal du soir avec Isabelle Millet et Nathalie Lévy. Très belle soirée avec Europe 1. Il est 19h.
Nous, c'est sûr, jusqu'au 10 à 14 heures, date de la prochaine Assemblée Générale. Aucun produit ne sortira de la raffinerie.
Va-t-on manquer d'essence alors que la CGT a l'intention de bloquer les raffineries les 4 prochains jours ? Venu soutenir les grévistes aujourd'hui à Grandpuy, Jean-Luc Mélenchon estime que le pouvoir de nuisance des grévistes n'a pas encore été pleinement déployé.
Demain, les négociations reprennent entre le gouvernement et les partenaires sociaux, mais s'achemine-t-on vers un compromis, comme le laisse entendre le gouvernement ? Pas sûr que les syndicats, en tout cas pas tous, soient sur la même longueur d'onde.
L'ouverture d'un procès hautement symbolique, celui d'Harvey Weinstein, pour cette première journée d'audience, des dizaines de femmes dont ses accusatrices se sont rassemblées devant la Cour suprême de l'État de New York. Et puis on commence à en savoir un peu plus sur la fuite de Carlos Ghosn. Il a pris un jet privé, mais aussi un train.
Et la tendance météo, c'est avec vous, Anissa.
Il va falloir être très prudent demain sur une grande partie du pays. Sur les trois quarts nord, de nombreux brouillards sont prévus. Des brouillards doublés de nuages bas. Prudence, le ciel va se dégager dans le sud de la France.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Isabelle Millet.
Et après la pause des fêtes de fin d'année, le gouvernement et les syndicats se retrouvent donc demain pour reprendre les négociations sur la réforme des retraites, alors que 2 journées de manifestations et de grèves sont d'ores et déjà prévues jeudi et samedi à l'appel de l'intersyndicale.
Alors que faut-il attendre de ces négociations ? Bonsoir François Geffrier.
Bonsoir.
Bienvenue dans le journal de 18h. On entendait le porte-parole du gouvernement parler de compromis rapide. Est-ce que les syndicats sont aussi dans cet état d'esprit de compromis ?
Alors vous savez, quand on commence à négocier, on commence en étant gourmand et inflexible. Or là, on ne va même pas commencer à négocier. C'est l'étape d'avant. Tout le monde autour d'une table, chacun prend la parole pendant 5 minutes et c'est fini. On se revoit plus tard. Par ailleurs, demain, on ne discute pas du tout du cœur de la réforme des retraites, les points, les âges, etc. On discute de 2 choses. Comment garder les seniors dans l'emploi ? Autrement dit, ne pas risquer d'être mis au chômage quand vous fêtez vos 45 ou vos 50 ans. C'est ça, senior. Et que faire face à la pénibilité du travail ? Alors là-dessus, je peux vous dire que j'ai appelé tous les syndicats et les organisations patronales cet après-midi et il y a un fossé entre les deux. Les patrons veulent bien faire un geste sur la prise en compte, par exemple, du travail de nuit, mais pour le reste, c'est niette. Les syndicats, eux, veulent la prise en compte d'autres critères de pénibilité. Les postures pénibles, le fait de porter des charges lourdes, d'être exposé à des vibrations mécaniques, à des agents chimiques dangereux, des critères qui existaient, mais que ce gouvernement a supprimé en 2017. Difficile de se dédire. Donc non, pas de compromis demain, mais qui sait, peut-être des surprises, puisqu'Édouard Philippe lui-même doit prendre la parole au début des discussions.
Merci beaucoup François Geffrier du service économie d'Europe 1.
Et on y retourne dans le détail avec Olivier Grégoire, député La République En Marche de Paris. Elle répondra aux questions d'Aurélie Herbemont dans 10 minutes. Notez que l'UNSA Ferroviaire a décidé de mettre fin à sa trêve, hein, qu'elle avait souhaitée pour les fêtes de fin d'année à la SNCF, comme nous le confirmait tout à l'heure sur Europe 1, son secrétaire général.
En tout cas, en attendant le résultat de ces concertations, les Français qui ont déjà du mal à monter parfois dans un train ou dans un métro vont-ils aussi devoir abandonner leur voiture ? Question en tout cas qui les préoccupe beaucoup.
Et pour cause, le blocage des raffineries à partir de demain jusqu'à vendredi va-t-il entraîner des pénuries ? La CGT Chimie a prévu de durcir le mouvement. 4 jours de mobilisation pour mettre la pression sur le gouvernement. Mais on voyait dans le journal de 18h que ce sont les automobilistes eux-mêmes qui sont à l'origine de pénuries en se ruant. Et c'est le réflexe vers les stations-service.
Il ne faut pas faire ça. Jean-Luc Mélenchon, en tout cas, était justement cet après-midi à Grandpuy, en Seine-et-Marne, dans l'une de ces raffineries. Écoutez le reportage sur place d'Hélène Terzian.
Bah, bienvenue déjà.
Merci.
Merci d'être venu.
On nous a dit que ça servait à quelque chose.
On a besoin des gens comme vous.
Sur le piquet de grève entre le feu de fortune et la tente dressée devant la raffinerie, le dialogue s'engage entre Jean-Luc Mélenchon et les grévistes.
Vous la ressentez comment, la négociation ?
Bah, la négociation, on la sent très mal se passer. Voilà, depuis le 5, on est dedans, on est en reconductible. Les appels nationaux, c'est bien, mais il faut maintenant qu'on rentre dans un vrai rapport de force.
Rien n'a jamais été donné comme ça.
Non.
Autrement qu'enlevé par la lutte.
En Assemblée générale, les grévistes votent l'arrêt de toute expédition par route ou par pipeline de carburant vers les dépôts, explique Marin Guillotin, élu force ouvrière à la raffinerie.
C'est sûr, jusqu'au 10 à 14 heures, date de la prochaine Assemblée générale, aucun produit ne sortira de la raffinerie. On ne respecte plus notre travail et nos retraites, on ne fait plus sortir le fruit de notre travail.
Un moyen d'action utile pour faire plier Emmanuel Macron, acquiesce le leader de la France insoumise.
Ça fait un moment qu'ils auraient pu ne plus laisser sortir un seul litre. Ça monte d'un cran, pourquoi ? Parce que l'autre aussi est monté d'un cran. Ils disent, bon, moi je pars en vacances, on verra le 9 janvier. Ils sont obligés d'être en grève encore plus longtemps. Les gens, ça les motive, puisqu'ils ne comprennent pas, ben, faudra ça.
Des grévistes qui donnent eux aussi rendez-vous le 9 janvier, prochaine journée de mobilisation nationale.
Le reportage d'Hélène Terzian à la raffinerie de Grandpuy en Seine-et-Marne. Et notez que Jean-Luc Mélenchon sera demain matin l'invité de la matinale d'Europe 1 avec Sonia Mabrouk à 8h20.
Et l'affaire Gabriel Matzneff maintenant, qui fait l'objet d'une enquête pour viol sur mineur. Le ministre de la Culture, Franck Riester, estime ce soir que l'allocation annuelle publique dont bénéficie l'écrivain n'est pas justifiée et ne devrait donc pas être renouvelée par le Conseil national du livre.
Alors, il s'agit d'une aide sociale qui est accordée à des auteurs vieillissants qui ont de faibles revenus. 15 écrivains en bénéficient actuellement. Et le journal du dimanche indiquait que Gabriel Matzneff, aujourd'hui âgé de 83 ans, aurait touché depuis 2002 un total de 160 000 euros. Le procès qui s'est ouvert aujourd'hui devant la Cour suprême de New York s'annonce historique et symbolique, bien sûr. Celui de l'ancien producteur de cinéma Harvey Weinstein, jugé pour viol et agression sexuelle au pluriel.
Depuis le début de cette affaire retentissante qui a lancé le mouvement MeToo, plus de 80 femmes l'ont accusé. Mais seules 2 plaintes ont abouti, hein, sinon c'était des accords financiers.
Oui, des femmes qui se sont massées aujourd'hui devant la Cour suprême de New York pour ce premier jour d'audience, donc, où le producteur est apparu en marchant avec l'aide d'un déambulateur. Parmi ces femmes, quelques stars, victimes, elles aussi du producteur, notamment l'une des plus célèbres, la comédienne Rosanna Arquette, qui affirme que Weinstein a freiné sa carrière car elle a refusé ses avances.
En ce début d'année, de nouvelles décennies, c'en est terminé. C'en est terminé du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. C'en est terminé de blâmer les victimes. Et c'en est terminé de cette culture perverse du silence qui a protégé les agresseurs comme Weinstein. Nous sommes ici pour nous assurer que cette affaire criminelle sera centrée sur le responsable et pas sur ses victimes. Et que la justice sera rendue. Et que ça soit lors de ce procès ou dans le futur, Harvey aura à rendre des comptes pour ses agissements.
Rosanna Arquette, cet après-midi devant la Cour suprême de l'État de New York pour l'ouverture donc du procès d'Harvey Weinstein, témoignage recueilli par le correspondant d'Europe 1, Xavier Yvon.
Et puis on a des détails ce soir encore sur la fuite de Carlos Ghosn vers le Liban.
Oui, on savait que pour s'enfuir, l'ancien patron de Renault avait pris un jet privé. Eh bien, on découvre aujourd'hui, Pierre Herbulot, qu'il a aussi pris un train.
Oui, c'est ce que révèlent nos confrères japonais de la NHK grâce aux images de vidéosurveillance de caméras un peu partout au Japon. On a pu retracer l'itinéraire de Carlos Ghosn de sa résidence jusqu'à l'aéroport et ça commence par une petite marche jusqu'à la gare de Tokyo. L'ex-patron de Renault Nissan prend le Shinkansen, le train le plus rapide du monde au look futuriste, direction Osaka, à 500 km de là. 2 personnes l'accompagnent. La police japonaise est en train d'essayer de les identifier. Pour l'instant, rien d'interdit. Assigné à résidence, Carlos Ghosn a le droit de sortir librement de chez lui et de faire des voyages de moins de 72 heures. Mais à son arrivée dans le Kansai, ça se complique. Il prend un taxi jusqu'à un hôtel de l'aéroport. 2 heures plus tard, les 2 personnes qui l'accompagnent ressortent. Sans Carlos Ghosn, mais avec 2 gros bagages. D'après les enquêteurs cités par les médias nippons, l'ex-PDG pourrait se trouver dans l'un d'eux, des boîtes pour transporter du matériel de concert. C'est comme ça qu'il aurait pu passer les différents contrôles de sécurité, moins stricts pour les jets privés, et s'envoler pour la Turquie, puis pour le Liban.
Étonnant. Merci en tout cas. Merci beaucoup Pierre Herbulot.
On en apprendra peut-être encore plus un mercredi lors de cette conférence de presse qu'il donnera à Beyrouth, 13h heure française. Donc le mania de l'automobile s'expliquera sur cette fuite rocambolesque. Merci beaucoup Isabelle Millet. À tout à l'heure sans faute à 19h30. Attention au brouillard, nous dit Anissa, pour demain mardi.
Oui, effectivement. Grande prudence. Hein. Demain, si vous nous écoutez dans la vallée de la Garonne, sur le massif central, le Jura, dans les pays de la Loire, en Bretagne, Là, les nuages bas du début de journée vont réduire votre visibilité et ces nuages bas vont être doublés de brouillard demain. Et parfois, ils resteront persistants toute la journée. Donc, très grande prudence sur les routes. C'est au sud, demain, des Alpes jusqu'à la Côte d'Azur, sur le Languedoc-Roussillon, sur les Pyrénées, que la journée sera la plus lumineuse, avec de très belles éclaircies et un temps sec. En Corse, c'est du soleil le matin et des ondées l'après-midi, donc pensez à votre parapluie. La Tramontane et le Mistral vont se renforcer hein, avec des rafales jusqu'à 90 km/h dans le sud. Les températures, elles sont de saison, en légère baisse par rapport à ces derniers jours. Moins 2 degrés demain matin à Manosque, 1 à Saint-Étienne, Colmar et Lyon, 4 pour Paris. Dans l'après-midi, nous aurons 6 à 16 degrés, 6 à Strasbourg et Belfort, et jusqu'à 16 à Marseille et 11 pour Paris.
Europe 1. À suivre dans votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Lors de l'interview politique dans quelques secondes avec vous, Aurélie Herbemont, bonsoir.
Bonsoir Nathalie.
Et votre invité ce soir. Olivia Grégoire, députée La République En Marche de Paris et vice-présidente de la Commission des Finances à l'Assemblée, on va parler des retraites.
Et l'interview politique d'Aurélie Herbemont, c'est dans un instant dans votre grand journal du soir sur Europe 1, jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir se poursuit avec vous, Nathalie Lévy, et tout de suite place à l'interview politique.
Et Aurélie Herbemont, votre invitée ce soir dans ce studio, Olivia Grégoire, députée La République En Marche de Paris.
Bonsoir Olivia Grégoire.
Bonsoir.
La CFDT de Laurent Berger propose une conférence de financement du système des retraites. Est-ce que comme Bruno Le Maire, vous êtes très enthousiaste et vous dites banco, ou comme l'Élysée, vous dites on prend note avec intérêt, mais il faut voir dans le détail?
Un peu des deux, mon général, si vous m'autorisez. Je suis assez naturellement et souvent d'accord, vous le savez, avec Bruno Le Maire, avec lequel j'ai la chance de travailler souvent, la Commission des Finances notamment. D'abord, je vois une proposition, une main tendue. J'ai écouté hier Laurent Berger attentivement. Et moi, je salue déjà l'attitude, la posture en ce début d'année qui n'est pas dans le rejet, ni dans la sémantique belliqueuse, mais qui est plutôt dans la sortie de crise, essayer de trouver une solution pour que les Parisiens, les Franciliens et l'ensemble des Français puissent continuer à retourner bosser, aller chercher leurs enfants et arrêter un petit peu de galérer. Donc je suis, un peu comme Bruno Le Maire, plutôt optimiste et je remercie en tout cas Laurent Berger d'ouvrir cette porte. La seule chose, et c'est pour ça que je comprends la vigilance de l'Élysée, la seule chose sur laquelle je pense qu'il faut être aussi clair, c'est que la responsabilité, en latin, ça veut dire répondre d'une chose. On a décidé, on a proposé aux Français une refondation du système de retraite, pas une réformette. Mmh. Qui dit refondation dit effectivement tout ce qu'on a mis au cœur du débat depuis maintenant un moment, c'est-à-dire le minimum 2000 euros, c'est-à-dire le système universel, c'est-à-dire faciliter les retraites pour les carrières hachées, pour les femmes et rendre le système plus juste. Tout ça, j'y suis extrêmement attentive.
Ça
mais
coûte de l'argent.
Il faut le financer. Et pour être à la hauteur de la responsabilité que nous avons, il ne faut pas éluder le sujet du financement. Faire une réforme qui ne serait pas financée consisterait en réalité à reposer le problème à quelques mois près ou à quelques années près, et je ne pense pas que ce soit ce que souhaite l'exécutif.
Parce que le sujet, on le voit bien, c'est que cette éventuelle conférence de financement, elle pourrait s'étaler sur des mois, Laurent Berger dit jusqu'à l'été, jusqu'en septembre, alors que la question du financement, l'exécutif veut qu'elle soit solutionnée, tranchée, dès le projet de loi qui sera déposé fin janvier.
Ce que
pour
veut
s'assurer du financement des nouvelles mesures.
Ce que veut l'exécutif, effectivement, et en responsabilité, j'y adhère, c'est que nous fassions l'intégralité de cette refondation, un système plus juste est un système qui est financé. En revanche, il y a une chose qu'on doit noter, et c'est en ça que la négociation est quand même quelque chose de passionnant et les avis évoluent du côté du gouvernement, mais aussi du côté des syndicats réformistes comme la CFDT. Début décembre, Laurent Berger, je crois, parlait de l'épaisseur du trait quand il parlait du sujet du financement.
Mmh, ça n'était pas un sujet pour lui, effectivement.
Bon, force est de constater qu'un mois après, le trait est assez épais, peut-être pour qu'on en fasse une conférence avec l'ensemble des syndicats. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant de voir que les syndicats réformistes font un peu évoluer leur position sur le sujet. Ce que je trouverais intéressant sur cette conférence de financement, c'est qu'on ne laisse pas les choses trop dans le flou, qu'assez vite le gouvernement réponde à cette proposition. Je crois que les négociations reprennent demain. Donc, il y a deux choses qui me sembleraient importantes. À minima, pour continuer à faire un peu de latin ce soir, qu'on sache quel serait l'ordre du jour de cette conférence de financement, pour ne pas partir dans une conférence sur le financement des retraites qui pourrait durer je ne sais combien de mois. Combien de temps pourrait-elle durer et quels seraient les sujets au cœur de la négociation sur le financement. Deuxièmement, à maxima, est-ce qu'on peut envisager peut-être de viser un atterrissage à la fin de cette conférence de financement? On sait qu'il va falloir entre 7 et 18 milliards. La fourchette est extrêmement large.
7, 18 milliards,
voilà,
ouais.
C'est fourchette, cuillère, couteau intégré. Là, on a 11 milliards de latitude. Je trouverais intéressant qu'on arrive à positionner peut-être un chiffre pour ce sujet de financement et avoir, à la fin de la, et à fixer pour la conférence de financement, un objectif qui serait comment on finance cette somme et cette masse. Donc oui, il y a une conférence de financement avec à minima un ordre du jour et un peu cadré, oui, ça me semble important. En revanche, et là c'est la vice-présidente de la commission des finances qui le dit, je pense que moi je me suis engagée en politique avec conscience et responsabilité. Et je pense que dépenser, c'est fondamental, et je n'ai aucun problème et je l'assume, pour rendre notre système plus juste. Vous voyez, moi il y a quelque chose dont je trouve qu'on ne parle pas assez, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le MICO. C'est un joli nom, c'est le minimum. Le MICO, c'est le minimum contributif, sont les 1 000 euros garantis de retraite pour chaque Français, pour les femmes, pour les carrières hachées, pour les agriculteurs, pour les indépendants. Vous voyez, aujourd'hui, on est à 85% du SMIC, on pourrait aller plus loin. Ça fait partie des choses qui pourraient être augmentées. C'est au cœur des négociations. Ça, c'est un immense progrès social. Ça se paye. Et donc, quand on est responsable et qu'on répond de ses actes, on doit aussi savoir comment on le finance. Donc, je ne souhaite pas que ce soit totalement décorrélé.
Alors, ce qu'on voit aussi avec cette proposition de Laurent Berger, c'est que lui, ça pourrait lui permettre de dire on fait une conférence de financement, mais du coup, vous enlevez l'âge pivot. Je rappelle pour nos auditeurs, l'âge pivot, c'est qu'on ne pourrait pas partir sans malus, sans décote avant 64 ans. Il faut l'enlever carrément du coup du projet qui sera présenté à la fin du mois, ce fameux âge pivot qui pose tant de problèmes aux réformistes.
Il y a beaucoup de choses qui ont été posées sur la table, puisque c'est l'expression là depuis quelques jours. J'ai lu avec attention les propositions aussi de Richard Ferrand.
Richard Ferrand, une décote qui serait temporaire.
Qui pourrait être temporaire, ce que je trouve assez intéressante. Moi-même, j'avais proposé avant les congés de Noël peut-être ce que j'avais appelé une sorte d'âge pivot modulable qui n'est pas très loin de ce qui tourne aussi sur certains sujets concernant la pénibilité. On ne peut pas forcément oublier ce sujet-là. Donc je pense que, si vous voulez, l'âge pivot, et Laurent Pietraszewski, le nouveau secrétaire d'État aux retraites, l'a rappelé, s'il y a de meilleures idées qui sont posées sur la table et qui font dégager l'âge pivot, on y va et on est prêt à les entendre et à les considérer, à les analyser. Au moment où je vous parle, être responsable sur cette refondation du système des retraites suppose qu'on finance la refondation. Aujourd'hui, je n'ai pas de proposition alternative. Si demain, dans les négociations, il y en a d'autres, on les regardera.
On cherche toujours la proposition magique.
Mais il y a des propositions qui ne sont pas magiques, mais qui peuvent
débloquer
voler
la situation.
Comme on dit,
Olivia Grégoire, vous êtes députée de Paris, soutien de Benjamin Griveaux dans sa campagne des municipales. Alors ce week-end, le vice-président de l'Assemblée, Hugues Granson, En Marche, ancien candidat à l'investiture, a rallié le dissident Cédric Villani. C'est une mauvaise nouvelle pour Benjamin Griveaux ?
Non, c'est pas une mauvaise nouvelle pour Benjamin Griveaux. Non. Alors déjà, je vais juste, parce que je suis sûr que ça serait passé autrement, déjà vous préciser plusieurs choses. J'ai le plaisir d'être élu de la 12e circonscription, 15e arrondissement et 7e arrondissement, et donc j'ai le plaisir de partager une partie du 15e arrondissement avec le député Hugues Granson. Depuis des mois, je suis sur le terrain. Je vous le garantis, je vous demande de me croire, on me parle de beaucoup, beaucoup de choses sur le terrain. On parle des retraites, voyez-vous. On parle des gilets jaunes, on parle de santé, on parle d'éducation. On ne me parle pas vraiment de la dissidence possible du grand son. Deuxièmement, je pense donc qu'il apporte une réponse à une question qu'on ne me pose pas et qui ne se pose pas. Deuxièmement, une chose qui est quand même importante, c'est que...
On peut rester vice-président et soutenir un dissident, Olivia Grégoire.
Ça va être ma réponse à cette nouvelle question. Je vous ai parlé de responsabilité au démarrage, je vais vous parler de cohérence maintenant, parce que moi c'est ce qui guide ma vie tout court. Je pense que quand on a été parmi les premiers première personnalité politique investie, c'est-à-dire parmi les 10 premiers candidats investis en 2017, j'avais l'honneur d'être là parmi les dernières investies, donc je sais de quoi je parle. Quand on était premier investi, quand on a eu l'honneur d'être derrière le président de la République dans ces moments-là, quand on a demandé la confiance à ses collègues députés En Marche pas plus tard que mi-octobre dernier pour être réélu vice-président de l'Assemblée nationale au nom de La République En Marche, alors, quand on est cohérent, on soutient le candidat de La République En Marche qui s'appelle Benjamin Griveaux. Il est relativement difficile pour moi, je pense, de rester vice-président de l'Assemblée nationale sur les couleurs d'un mouvement qu'on ne soutient pas pour des élections aussi importantes que les municipales à Paris.
Eh bien, on sent que la réconciliation n'est pas forcément pour tout de suite entre les camps Griveaux et Villani. Merci beaucoup, Olivia Grégoire, d'avoir été mon invitée.
Merci à vous. Europe 1.
À
suivre dans votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Restez avec nous sur Europe 1 à 19h30. On va regarder vers le futur. Direction ce soir à Las Vegas pour l'ouverture du plus grand salon d'innovation au monde, le CES, c'est le Consumer Electronic Show. Hein. Les inventions les plus folles, les technologies qui vont changer nos vies. Déjà cette année, on vous dit tout. Et puis à 19h45, de la culture, ce soir, coup de projecteur sur l'un des plus grands cinéastes français. J'ai nommé Jean-Luc Godard. Le Cinémathèque lui consacre une rétrospective pendant 2 mois.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1. Europe 1 qui a toujours un temps d'avance et on s'intéresse, Nathalie, à ce qui va se passer demain.
Oui, demain dans le monde, demain en France, demain dans nos vies. On va commencer par regarder la situation à l'international parce qu'il y a de quoi s'interroger ce soir. Bonsoir Jean-Sébastien Soldaini.
Bonsoir.
On reparle évidemment de ce qui se joue en Iran avec les funérailles aujourd'hui du général Soleimani à Téhéran, au cri de mort à l'Amérique. Hein. Soleimani, t'es le numéro 2 du régime. Hein. Ces funérailles devant une foule immense, qu'est-ce que ça te dit du climat en Iran?
Tout d'abord, ça témoigne de la popularité de Qassem Soleimani. Il est évident que ce genre de rassemblement de masse est soigneusement organisé par les autorités, mais cet homme jouissait tout de même d'une aura qui dépassait la base des conservateurs en Iran. La frappe qu'il a ciblée n'est pas considérée uniquement comme une attaque contre le régime, c'est perçu comme une offense à l'Iran tout entier. Donc en visant Qassem Soleimani, les Américains ont probablement soudé une partie de l'opinion derrière les dirigeants du pays parce qu'il y a de la contestation en Iran. Mi-novembre, des manifestations contre la hausse des prix de l'essence ont été sévèrement réprimées. Message envoyé par le pouvoir à la rue, soit vous nous suivez, soit ça se passera mal. Donc tout en ce moment concourt à asseoir l'autorité des partisans de la ligne dure. Il est fort probable que ça se voit fin février aux élections législatives.
Ouais. Alors il faut savoir que le régime iranien a promis une riposte militaire, une dure vengeance, comme ils disent. Les autorités iraniennes qui affirment ne plus avoir de limite dans l'utilisation de centrifugeuses pour enrichir l'uranium, ça veut dire qu'ils rejettent l'accord sur le nucléaire?
À première vue, on peut se dire ça. Plus de limites, ça laisse entendre que les Iraniens vont aller au plus vite pour enrichir leur uranium. Mais ils ont déjà dépassé les limites, que ce soit sur le taux d'enrichissement, sur leur stock de minerais et sur la qualité des centrifugeuses. En revanche, ils n'annoncent pas un enrichissement à 20% comme on pouvait le craindre. C'est en gros la dernière étape symbolique avant d'avoir l'uranium de qualité militaire. Ils n'annoncent pas non plus sortir de l'accord de Vienne. Donc dans leur tête, tout est réversible. Malgré les apparences, ils jouent la prudence sur ce dossier. Ils gagnent du temps, ils misent sur une chose, la non-réélection de Donald Trump en espérant qu'un président démocrate arrive à la Maison-Blanche pour discuter un peu plus sereinement.
Voilà le point de non-retour qui n'a pas encore été franchi. On va suivre de près cette situation. Merci beaucoup Jean-Sébastien Soldaini. Demain en France, c'est également votre rendez-vous chaque soir avec vous, Théophile Cossa. Bonsoir.
Bonsoir Nathalie.
Demain, on sera donc le 7 janvier, date d'un triste anniversaire, celui de l'attentat de Charlie Hebdo.
Oui, c'était il y a 5 ans, une journée noire que vous nous aviez fait vivre, Jean-Sébastien Soldaini, sur Europe 1.
Je viens à peine d'arriver, à quelques mètres de moi, une personne qui est étendue sous une couverture. Il doit y avoir une trentaine de véhicules de secours, plusieurs brancards aussi qui sont passés à vide en direction de cet immeuble. Beaucoup de policiers qui s'activent pour essayer de comprendre et de secourir les premières victimes.
12 morts, 11 blessés et toute une nation meurtrie. La France qui commémorera demain et pour la 4e fois l'attentat de Charlie, notamment devant l'immeuble où s'est produit le drame dans le 11e arrondissement de Paris.
Et cette année, l'atmosphère sera peut-être encore plus lourde que les années précédentes car c'est en 2020 et au fil que doit se tenir le procès de l'attentat de Charlie.
Oui Nathalie, vous le savez, les auteurs directs de l'attentat, les frères Kouachi, sont morts, abattus par le GIGN 2 jours après leur passage à l'acte, mais ils n'étaient pas les seuls impliqués. Comme le rappelait hier sur Europe 1, le médecin urgentiste et ancien collaborateur de Charlie, Patrick Pelou.
Bien sûr, les frères Kouachi ont été abattus, mais il y avait toute la logistique autour de cet attentat terroriste. C'est une grosse logistique. Moi, ce que j'attends, c'est justement de comprendre l'armature et l'architecture de ces terroristes islamistes, comment ils ont fonctionné, quelles sont leurs ramifications et quels sont ceux qui ont joué les idéologues.
Le procès de l'attentat de Charlie Hebdo et de l'hypercachère se tiendra du 4 mai au 10 juillet prochain devant une cour d'assises spéciale. 14 suspects doivent comparaître, soupçonnés à des degrés divers de soutien logistique aux frères Kouachi et à Amédi Coulibaly, l'auteur de la fusillade à l'hypercachère.
Et en attendant ce procès, la rédaction de Charlie commémorera aussi à sa façon ce triste anniversaire avec un numéro spécial.
Oui, un numéro commémoratif en kiosque demain, consacré aux nouvelles formes de censure et qui fustige, je cite, les nouveaux gourous de la pensée formatée, associations tyranniques, minorités nombrilistes, blogueurs et blogueuses qui nous tapent sur les doigts comme des petits maîtres d'école, selon les mots de Rice, directeur de la rédaction. Preuve que 5 ans après, l'esprit et l'impertinence de Charlie demeurent malgré tout entiers.
Un numéro spécial qui donne également la parole aux proches des victimes. Et demain soir, je recevrai dans ce studio à 19h30 Chloé Verlac, la veuve du dessinateur Tinius. Elle publie un livre intitulé « Si tu meurs, je te tue ». C'est aux éditions Plomb.
Europe 1.
À suivre, Nathalie Lévy, avant 20h sur Europe 1.
Le rappel des titres d'Isabelle Millet. Juste après 19h30, on file à Las Vegas. Allez, comme ça, tiens, pour démarrer l'année. Allez, pour l'ouverture très sérieusement du plus grand salon de l'innovation au monde. Les inventions les plus folles, les technologies qui vont tout changer dans nos vies. C'est juste après 19h30.
Et si vous avez des questions sur le CES à poser, n'hésitez pas, ça se passe au 3921 et on vous lit également sur Twitter avec le hashtag Europe 1, votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy jusqu'à 20h. 19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Avec votre rappel des titres, Isabelle Millet.
La réforme des retraites, le retour des négociations demain, alors que deux journées de grève et de manifestations sont déjà prévues pour jeudi et samedi. Côté trafic, la circulation restera perturbée, avec toutefois du mieux sur les TGV. 3 sur 4 devraient circuler. Trafic normal sur Paris-Lille, quasi normal sur Lyon et sur Marseille. 6 TER sur 10, un Transilien sur 2 et 2 Intercités sur 5. L'UNSA ferroviaire, qui avait instauré une trêve pendant les fêtes, reprend la mobilisation. À la RATP, aucune ligne ne sera totalement fermée, mais la plupart ne seront que partiellement ouvertes. La rentrée de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui sur un piquet de grève à la raffinerie de Grand-Puy en Seine-et-Marne. Sa rentrée politique, ce sera demain matin à 8h20 sur Europe 1. Les raffineries qui seront bloquées pour les 4 prochains jours. Le ministre de la Culture, Franck Riester, prône le retrait de l'aide publique dont bénéficie l'écrivain Gabriel Matzneff après l'ouverture d'une enquête pour viol sur mineur à son encontre. Toujours ces images de fin du monde en Australie, ces incendies totalement hors de contrôle qui ravagent le pays à vitesse grand V. L'Open de tennis d'Australie pourrait être menacée. Les organisateurs en tout cas s'interrogent. Et puis la gastro a peut-être gâché vos vacances. Elle pourrait aussi gâcher votre reprise. On vous confirme que l'épidémie est à son pic, talonnée par la grippe qui arrive à grands pas.
Merci beaucoup Isabelle Millet. L'info revient avec vous demain 18h.
À demain.
On compte sur vous. Beaucoup de nuages demain, Anissa.
Oui, c'est une journée bien grise demain sur les trois quarts nord de la France. Attention demain matin au brouillard doublé de nuages bas au lever du jour. Ça concerne quasiment tout le pays. Vous allez prendre la route tôt demain matin. Vous aurez une visibilité très réduite. Dans le centre, l'Isère et le Massif central, ces brouillards pourront même persister une bonne partie de la journée. Et sur ces régions-là, vous pourrez encore avoir du brouillard demain dans l'après-midi. Dans le sud, des Pyrénées jusqu'à la Côte d'Azur, tout le long de la Méditerranée. Et puis dans les Alpes, et bien là, la journée est très ensoleillée. Demain, une journée très lumineuse. Les températures, 6 à 16 dans l'après-midi. 6 à Strasbourg, 16 à Perpignan, 11 à Paris.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, avec un rendez-vous mondial à ne pas manquer.
Ouais, allez, on file. On est comme ça. On vous emmène en ce début 2020 directement comme ça à Las Vegas. Plus sérieusement, pour l'ouverture du plus gros salon de l'innovation au monde. Avec, vous allez voir, des nouveautés, des technologies qui vont peut-être changer nos vies là, tout de suite, demain, avec Clément Lezaffre qui est sur place. Clément, bonsoir. Et Anissé Mbida dans ce studio à mes côtés. Bonsoir, Anissé.
Bonsoir, Nathalie. Bonsoir à tous.
Meilleurs voeux. Ravi de vous retrouver. Bonsoir à tous les deux. Enfin, bonjour d'ailleurs pour vous, Clément.
Oui, c'est le matin à Las Vegas.
C'est le matin à Las Vegas. Alors Clément, on est à la grande messe de l'innovation du début d'année, ce CES Consumer Electronic Show qui ne devrait pas décevoir. Ça ouvre officiellement ses portes demain, mais vous, vous y êtes un peu en avant-première comme ça et vous avez déjà des infos, une tonalité en tout cas.
Oui, j'ai déjà pu voir pas mal de choses. Il faut savoir qu'il y a plus de 4500 entreprises cette année qui vont proposer leurs innovations, donc c'est assez conséquent. Et il y a vraiment de tout. C'est un espèce de grand bazar de l'innovation. On trouve à la fois sur les voitures, sur les avions, sur la maison connectée, sur les téléphones, sur les télés. Enfin, il y a vraiment tout ce qu'on aura dans nos maisons ou dans nos vies dans les prochains jours.
Demain.
Et dans les prochains mois plutôt.
Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Clément, je reviendrai à vous dans un instant. Est-ce qu'on aura tout ça dans nos vies demain, Anissa Mbida ? On va préciser, bien sûr, parce qu'on sait que, de toute évidence, très présent là, dans ce salon, dans ce grand show, l'intelligence artificielle invisible, apparemment.
Oui, on en met partout aujourd'hui, l'intelligence artificielle. C'est la nouvelle électricité du 22e siècle, on va dire ça comme ça. Le CES, c'est amusant, c'est devenu un salon à la fois de la voiture et de la télévision. Parce que c'est les plus gros stands, sont les stands de voiture et les stands de télévision. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce que va faire Clément, c'est d'aller dans les tout petits pavillons pour aller découvrir les petites innovations, celles qui vont justement changer nos vies demain, qui elles viennent de Singapour, viennent du Mexique, viennent du Danemark, mais qui sont dans des tout petits stands et qui n'ont pas encore la puissance des grands traditionnels et qui vont émerger.
Anissé, pardon, je ne veux pas vous interrompre, mais avant d'aller sur ces petits stands-là, il y a quand même les Français, Clément Lezaffre. Ils sont comment ? La France est-elle bien représentée là pendant cette grande messe ?
Bah, elle est même très bien représentée. Ah. Hein, nous avons quelques 200 entreprises cette année. Ça fait de nous bah, tout simplement le deuxième plus gros pays du CES derrière, évidemment, ah oui. les États-Unis. Donc, il y a vraiment tout. Il y a à la fois des très grosses entreprises. On disait, bah, il y a Renault qui est là, par exemple, qui vient voir des choses au niveau de la voiture autonome notamment. Il y a aussi des entreprises plus technologiques, on va dire. Et puis, il y a des entreprises qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, qu'on n'associe pas en France à la tech, par exemple, Leroy Merlin. Voilà, Leroy Merlin, on n'imagine pas forcément une entreprise technologique. Eh bien, ils viennent parce qu'ils ont besoin. C'est une entreprise qui travaille sur la maison, Leroy Merlin, et la maison, elle va être connectée. Donc, ils ont besoin d'investir ce champ. Donc, ils ont un stand au CES cette année. Et puis, il y a évidemment une myriade de start-up qui ont travaillé parfois quelques mois, parfois des années sur des petits projets qu'ils espèrent bien pouvoir mettre en avant dans ce salon. Et surtout faire face à la concurrence des autres pays qui deviennent de plus en plus pressantes.
Ouais. Alors Anissé, on l'a entendu, le roi Merlin qui vient pour se renseigner, Renault aussi, plutôt pour se renseigner si j'en crois Clément Le Saff, que pour amener des nouvelles technologies. Qu'est-ce qu'on doit attendre des Français qui amènent, eux, quelque chose?
Alors, il y a pas mal de Français qui sont très, très forts, justement, on parlait d'intelligence artificielle, ouais. Les Français sont très, très doués dans ces domaines-là. L'intérêt du CES, c'est aussi un salon d'intégration, c'est-à-dire qu'on va chercher, aujourd'hui, plus personne n'a ce qu'on appelle une intégration verticale, fait tout, à la fois le matériel, le logiciel, la distribution, il y a peu de gens qui font ça. Donc, on va au CES pour aller chercher le meilleur de l'intelligence artificielle, d'accord. Le meilleur du matériel, le meilleur de la voiture. La voiture connectée, c'est un très bon, la voiture autonome, c'est un très bon exemple parce que aujourd'hui, les constructeurs automobiles historiquement faisaient tout eux-mêmes. Aujourd'hui, on voit des accords qui sont passés avec les champions de la tech, hein, les Amazon, Google, Apple, pour toute la partie multimédia, ouais. Par exemple. Pour la partie autonome, aujourd'hui, on commence à avoir des spécialistes des radars, des spécialistes de l'analyse de la route. Et donc, les constructeurs automobiles sont obligés d'aller faire un petit peu leur marché à Las Vegas pour trouver les bons constructeurs qui vont, les bons partenaires qui vont les aider à intégrer. Et les Français sont très forts justement dans ces briques. On parle... Il y a par exemple Valeo qui est très très doué aujourd'hui en matière de voitures autonomes. Valeo qui est au CES et qui va présenter par exemple un système pour gérer automatiquement le déplacement des voitures, notamment quand il y a des problèmes,
des intempéries
où on a beaucoup de soucis aujourd'hui. Ouais. Donc tout ce genre de choses, c'est l'intérêt du CES. Et quand vous parliez tout à l'heure d'intelligence ambiante et d'invisibilité, on avait l'habitude il y a quelques années de parler des enceintes connectées, vous savez, des enceintes d'intelligence artificielle.
Oh, ça date même.
Et maintenant c'est fini. Il y en a dans les douches, il y en a dans les robinets. Il y en a dans les frigos, il y en a un peu partout dans les télévisions. Aujourd'hui, ces systèmes qui sont capables de reconnaître la voix et d'agir de n'importe quelle manière.
Alors, pas chez moi. Mais Clément Le Saffre, vous allez nous en dire plus dans un instant. Depuis Las Vegas, avec vous également, Anissé Mbida, parce qu'en termes de mobilité, de santé, de voitures connectées, je suis sûre qu'il y a plein de tendances que vous allez pouvoir au moins un petit peu comme ça nous raconter. À tout de suite.
Et si vous avez vous aussi des questions sur ces nouvelles technologies à poser à nos spécialistes, n'hésitez pas, ça se passe au 3921 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Votre grand journal du soir se poursuit jusqu'à 20h. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec nos spécialistes ici, Europe 1, Clément Le Saffre et Anissé Mbida autour de vous, Nathalie Lévy, et on s'intéresse au plus grand salon de nouvelles technologies qui se tient à Las Vegas.
Et oui, le Consumer Electronics Show qui ouvre ses portes officiellement demain, mais Clément Le Saffre a déjà pu se renseigner largement pour cette édition 2020 et Anissé Mbida, vous avez vous aussi tous les éléments pour nous éclairer ce soir. On attend environ 175 000 visiteurs. Clément Le Saffre, allons-y, disons-nous les choses. Quelles innovations pour demain? Et surtout, pardon d'être un peu pratico-pratique, mais pour nous, pour nos foyers, dans nos maisons?
Eh ben, y a vraiment de tout. Alors, par exemple, moi, j'ai pu voir hier tester une démonstration d'un thermomètre pour four intelligent. Alors, en fait, comment ça marche? Eh bien, vous avez envie de cuire un poulet, par exemple. Vous n'êtes pas très doué en cuisine, ça peut arriver à tout le monde. Vous placez votre poulet au four, vous mettez le thermomètre dedans. C'est un tout petit objet qui doit faire 3-4 cm. Vous le plantez dans le poulet. Et en fait, c'est lui qui va repérer la température et se connecter à votre four pour adapter en fonction vraiment pour que ce soit au degré de cuisson près. Donc, vous allez avoir finalement à la fin le poulet parfait. C'est un petit outil tout bête, mais qui peut transformer n'importe qui finalement en grand chef. Vous
avez, et ça, c'est pour demain exemple, ça, c'est pour demain. Enfin, je veux dire,
ça,
c'est imminent.
Ça, c'est déjà pour demain. Ce sera commercialisé dès la fin du salon. Donc, on est vraiment sur... Ce n'est pas le futur, ouais, c'est aujourd'hui.
C'est aujourd'hui.
Concrètement, aujourd'hui.
C'est aujourd'hui. Et c'est Aurélien qui nous appelait au 3921, Damien, et je lui ai piqué sa question sans le savoir. Je n'avais pas lu la question de notre auditeur Aurélien. On vous salue, et c'était donc une question très pertinente. Anissa Mbidar, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la même veine?
Alors, dans l'électroménager, il y a un cultivateur, ça s'appelle. Vous connaissez le four, vous connaissez la plaque, vous connaissez la machine à laver. Maintenant, il y a un cultivateur, c'est-à-dire, il faut imaginer une énorme armoire qui ressemble un peu à un frigo, avec plein d'étagères à l'intérieur. On pose des graines, de salade, de carottes, de tomates.
C'est génial.
Et il gère toute la culture pour vous. Il n'y a pas besoin d'avoir la main verte et on peut récolter ces tomates après. Il y a aussi des nouveaux pare-soleil. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des pare-soleil. Quand on met son pare-soleil parce qu'on est aveuglé par la lumière qui arrive devant, ben ça masque une partie du pare-brise, évidemment, le pare-soleil. Et là, c'est des pare-soleil transparents qui vont mettre des taches noires pile à l'endroit où il y a le soleil, par exemple.
Parfait.
Il y a plein aussi de nouveautés en mobilité individuelle, on appelle ça. Par exemple, des trottinettes avec des cruise control, c'est-à-dire des régulateurs de vitesse automatiques, ou bien des fauteuils roulants, un peu comme dans Wall-E. Vous voyez, je ne sais pas si c'est du film Wall-E. Et ben, des systèmes comme ça où on peut se déplacer, mais au lieu de se déplacer debout, comme sur les trottinettes, on se déplace assis. Il y a beaucoup, beaucoup de choses sur les mobilités.
C'est ça, c'est ce que j'allais dire, Clément Le Saffre. On a beaucoup de choses sur la mobilité, on a beaucoup de choses sur le véhicule autonome, le vélo, parce qu'on le voit le vélo, évidemment, il est sans volant ni pédale demain. Enfin, j'imagine.
Oui, complètement. En fait, on ne fera plus rien. On ne pédale déjà plus aujourd'hui. Demain, on conduira quasiment plus rien. En fait, on sera totalement assisté. Alors, pas forcément dans le mauvais sens du terme. Par exemple, ça peut être des choses aussi très intéressantes. Typiquement, des logiciels de voitures autonomes qui, au-delà juste de conduire la voiture pour vous, vont la conduire comme vous, par exemple, ils vont vous allez la
si on est mauvais,
ils vont apprendre.
C'est pas forcément bon signe.
Voilà, exactement. Si vous aimez mal conduire, ils conduiront mal comme vous. En fait, voilà, ils apprennent vos schémas de conduite, la façon que vous avez de tourner. Est-ce que vous êtes brusque? Est-ce que vous êtes souple? Est-ce que vous freinez très tôt ou un peu tard? Ils vont en fait reproduire votre schéma de conduite pour que quand vous allez lâcher le volant, eh bien, vous ne soyez pas non plus en train de vous dire qu'il y a quelqu'un qui conduit à votre place. Ça reste votre voiture et pour ça, il faut que ce soit votre conduite aussi. Donc, l'idée, ce n'est pas de brusquer les gens, c'est pas de leur imposer une technologie en disant « vous n'avez pas le choix », c'est de faire en sorte que ça s'installe dans nos vies progressivement et qu'on ne soit pas choqué.
Juste, Clément Le Saffre, parce qu'on est sur les véhicules, sur les autos, je lisais, il y avait une pleine page dans Le Parisien il y a quelques jours sur la voiture volante. Ce sont des Français d'ailleurs, je crois, Anissa Mbidassouri, mais ce sont des Français aussi qui se sont attachés à essayer de la mettre en place. Elle doit être présente, cette entreprise française, sur place, et on y est presque ou pas?
Alors, eux disent « on y est presque ». La vérité, c'est que c'est souvent comme ça au CES. On nous dit souvent « ça y est, on y est presque, c'est pour demain », etc. En général, on attend quand même un petit peu plus au final. Voiture volante, il faut être honnête, c'est pas demain. C'est demain, ce sera en prototype sur 100 mètres, sur une piste ou quoi que ce soit. Il va falloir quand même attendre beaucoup plus de temps pour que ce soit quelque chose qu'on puisse avoir dans son garage et partir sur la route et éviter les embouteillages, ce qui est bien pratique.
On n'autorise pas un drone qui fait quelques grammes à voler au-dessus des passagers. Vous imaginez une voiture volante qui fait des tonnes, même si elle fonctionnait techniquement, ce qui n'est pas le cas, elle n'aurait pas d'autorisation de voler tout simplement. On n'autorise pas un drone à voler au-dessus des personnes, on va pas autoriser un truc qui fait des tonnes.
Et encore moins un humain dedans. Merci beaucoup Clément Le Saffre, on vous libère. Mais on vous laisse guetter évidemment toutes ces belles innovations pour nous. Juste un mot à Anissa Mbidar, parce que il y a la technologie, il y a les innovations, mais il y a aussi le social, le sociétal qui prend aussi sa place.
Et c'est la première fois. Il y a Yvan Quatrem qui vient au salon pour parler des migrants. Il y a des sessions de débats sur l'impact social des technologies, sur le réchauffement climatique, sur les fake news, sur les addictions des enfants, sur la reconnaissance faciale aussi qui pose énormément de problèmes aujourd'hui. Il y a des sessions. Apple n'est jamais présent au CES. Il vient pour la première fois cette année pour parler de quoi? De vie privée, parce qu'il y a un gros problème aujourd'hui sur la vie privée. On a les GAFA qui piquent nos informations. Donc pour une fois, le CES n'est pas que des gadgets inutiles qui servent à rien. Il y en aura beaucoup, mais on va aussi se poser des questions un peu centrales.
Merci beaucoup Anissa Mbidar, merci à Clément Le Saffre sur place à Las Vegas. On va suivre ça de très près et puis on aime bien l'idée d'avoir ces innovations dans nos cuisines demain. Merci à vous.
Europe 1. Dans un instant, Nathalie Lévy, on va parler cinéma.
Oui, la culture sur Europe 1, avec un coup de projecteur sur Jean-Luc Godard. La Cinémathèque lui consacre pendant 2 mois une rétrospective. On raconte ses secrets avec mon invité, peut-être celui qui le connaît le mieux, le critique Alain Bergala. A tout de suite.
Vous écoutez Nathalie Lévy, c'est votre grand journal et c'est tous les jours jusqu'à 20h. Et la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est jusqu'à 20h et c'est aussi la culture au sens large. Dans un instant, on va parler cinéma. Mais d'abord, on découvre la playlist du 18-20. Qu'est-ce qu'on s'écoute en ce lundi soir, Nathalie?
Eh bien, pour démarrer l'année, un extrait du dernier album de Vincent Delerme. Je ne sais pas si c'est tout le monde.
Et je sais, dans un cinéma,
visage, tes yeux qui s'inondent. Mais je ne sais pas si c'est tout le monde. Je sais cette forêt-là, 14 ans, les choses laissées là-bas. Ultra moderne enfant.
Poétique, Vincent Delerme. Et tout en douceur pour ce démarrage sorti en fin d'année dernière, Panorama, et le dernier album de Vincent Delerme qui sera l'invité de Philippe Vandel demain. Notez bien, mardi à 9h.
Prochain titre dans la playlist 18-20, ce sera demain évidemment à la même heure. Nathalie Lévy, coup de projecteur, et c'est le cas de le dire ce soir, sur l'un des cinéastes français les plus respectés jusqu'à 20h. On parle de Jean-Luc Godard. La Cinémathèque lui consacre une rétrospective. Avec vous pour en parler ce soir, Alain Bergala, critique, réalisateur et auteur de nombreux essais sur la vie de Jean-Luc Godard.
Bonsoir Alain Bergala, merci Bonsoir. D'être dans ce studio ce soir. Le mépris, 1963, c'est bien ça ?
Oui, c'est bien ça.
Avec Brigitte Bardot, Michel Piccoli, et musique de Georges Delerue, pour être exact. Ce film-là et tant d'autres pendant ces 2 mois à la Cinémathèque de Paris. Vous et Godard, c'est une amitié ? C'est quoi votre...
Godard a très peu d'amis.
Oui, c'est pour ça que je vous posais la question.
Non, c'est une relation de travail. Longue, voilà, et continue.
Cette rétrospective sur le réalisateur de plus de 200 films, c'est très ambitieux, pas trop ambitieux ?
C'est très énorme en tout cas, et très difficile, très difficile à organiser, vous imaginez. Parce qu'il n'y a pas les grands films de Godard, c'est facile de les trouver. Mais il y a des tas de petits trucs, d'essais, il fait beaucoup de choses à côté de ces grands films. Oui. Et là, il y a tout. C'est-à-dire même les choses les plus rares, les plus expérimentales, il y a absolument tout.
Vous avez été consulté pour cette rétrospective, vous savez un peu, effectivement.
Non, moi je vais intervenir
sur Pierrot le Fou, notamment. Voilà. Donc cette rétrospective, pas trop ambitieuse, c'est bien, c'est le moment.
C'est le très bon moment, tout à fait.
Il sait, il a approuvé, il a validé, vous savez, ou pas, ce qu'en pense Jean-Luc Godard. Parce que Jean-Luc Godard, une rétrospective, on peut imaginer que ça l'irrite.
Non, puisqu'il va venir.
Oui, donc il va venir finalement.
Il va venir, oui.
D'accord.
En fait, non, parce que la personne qui s'est occupée de la programmation, c'est Nicole Brunez, qui travaille avec lui.
Donc,
travaillé sur ses derniers films. Donc, il y a un vrai climat, disons, d'acquiescement.
Non, je reviens sur le fait qu'il vienne, parce qu'effectivement, je m'étais interrogée, est-ce qu'à un moment, il était question qu'il y ait une rencontre avec Anna Karina, Jean-Luc Godard, donc, et puis elle a disparu au mois de décembre. Il a maintenu quand même sa présence. Cette disparition, on ne peut pas ne pas l'évoquer là ce soir. Cette disparition, elle a marqué un tournant considérable aussi, Anna Karina.
En fait, le cinéma de Godard des années 60, c'est aussi le cinéma d'Anna Karina et aussi le cinéma de Raoul Gouta. Il y a eu un trio, image, actrice et cinéaste, qui a inventé énormément de choses, qui a ouvert beaucoup de choses dans le cinéma, dans les années 60.
Je me demandais en lisant, en relisant beaucoup de choses qui avaient été écrites sur Jean-Luc Godard, comment on est véritablement quand on vit en Suisse comme lui, reclus d'une certaine manière, isolé en tout cas, très isolé, c'est sa volonté. Comment on vit aujourd'hui ce qui se passe en France ? Comment il regarde d'après vous et qu'est-ce qu'il vous dit sur à la fois cette société, on a mis tout avec le procès Weinstein qui a commencé aujourd'hui aux États-Unis, Roman Polanski qui a été inquiété ces derniers jours, et puis désormais l'affaire Metzner. Ce climat, comment il l'observe ? Comment il le
Il a des antennes incompréhensibles. C'est-à-dire qu'il est effectivement chez lui, il bouge très peu, enfin de rôle, et il attrape tout. Il attrape tout, il comprend tout, il essaye. Et il a un projet de film sur les Gilets jaunes.
Mais c'est vrai alors ?
Ah oui, c'est vrai.
C'est vrai.
Sur les Gilets jaunes. Oui. Quand Godard dit sur quelque chose, après c'est un autre film. Mais en tout cas, le déclencheur, c'est ça.
On va l'écouter, Jean-Luc Godard. C'était au micro de Diane Chinouda en 2010.
Je me prétends français, mais je ne me prétends pas la France. Si par exemple, en tant que Suisse, je paye mes impôts en France, exactement le contraire de ce que fait Johnny Hallyday, c'est parce que j'aime la France et que des fois, j'ai même l'ambition de penser que la France peut m'aimer.
La France l'aime, Jean-Luc Godard. La France le respecte, même, j'allais dire, se répand à ses pieds. Est-ce que lui, aujourd'hui, aime la France telle qu'elle est devenue ?
En tout cas, la France, c'est ce qui l'intéresse le plus.
Ouais. Il a la double nationalité.
Tout à fait. Et il est toujours très, très attentif à tout ce qui se passe en France, absolument. Peut-être plus qu'en Suisse ou ailleurs. Il se sent tout à fait son point de départ au cinéma, c'est quand même la France.
C'est quand même la France. Faisons le rapprochement, si vous le voulez bien, entre une de ses œuvres et le climat actuel. J'y reviens parce que ça m'a interpellée. Sur le site du Média Causeur, il est prédit que le film masculin-féminin 1966, vous en souvenez, avec Chantal Goya, Jean-Pierre Léaud, Marlène Jobert, serait aujourd'hui censuré au nom de MeToo. Il y explorait à l'époque les rapports entre les deux sexes sur fond de société de consommation. Vous pensez effectivement
que... Non.
Non.
Non, non, je pense que c'est un film... Au contraire, extrêmement respectueux de tout. Je veux dire, Godard n'est pas du tout quelqu'un qui est attaquable sur des questions comme ça. C'est quelqu'un qui est extrêmement pudique, extrêmement respectueux de ses actrices. C'est le contraire.
Mais
de
il, ce a, su, il a su filmer le désir d'émancipation sexuelle des hommes comme des femmes dans ce film-là, entre autres. Mais il l'a fait plus subtilement, c'est ce que vous me dites.
Il l'a fait surtout avec beaucoup de dignité. Si vous voulez, jamais chez Godard, pour prendre un exemple très simple, on voit... Anna Karina, on ne l'a jamais vue de face nue. On n'a jamais vu ses seins. Alors qu'à l'époque, dans les années 60, toutes les femmes qui étaient dans les films, on les dénudait. Donc non, Godard, par rapport à ça, est quelqu'un d'extrêmement respectueux.
Mais qu'est-ce que vous pensez qu'il pense de ce mouvement? Tout ce mouvement de je ne sais pas, peut-être certains diront une forme de puritanisme, d'autres qui diront qu'une époque juge une autre époque. Qu'est-ce qu'il dit, lui?
En tout cas, lui, sur cette question-là, si vous voulez, lui, il est plutôt puritain. Et je pense que ces jugements moraux à l'emporte-pièce d'aujourd'hui, ça doit quand même assez l'amuser.
Alors les Gilets jaunes, donc ça l'inspire de toute évidence puisqu'il y a un prochain film. Vous pensez vraiment qu'il peut aller au bout? Il était même question d'y voir apparaître Natacha Polony, l'éditorialiste. C'est véritablement quelque chose qu'il a envie de mener à son terme.
Godard fonctionne comme
il
ça toujours.
Parle, ouais.
C'est-à-dire que Godard, il a une idée, il dit je vais faire un film sur ça, après ça bouge, ça évolue. Et finalement, au bout du compte, il reste quelque chose, mais plutôt gâché. Si vous voulez. Bon, ouais. C'est sa façon à lui de penser la réalisation d'un film.
Mais donc, ce que vous nous dites, en tout cas, c'est qu'il n'a pas dit son dernier mot. Il a encore de l'énergie, il a encore envie de raconter, de tourner, de filmer.
Tout à fait. Il a 89 ans et il tourne sans arrêt. Il tourne dans son système à lui, c'est-à-dire chez lui, avec ses machines, les gens qu'il fait venir. Mais il est au contraire... au niveau de la création, en pleine forme.
Qu'est-ce qu'on va trouver dans cette rétrospective? Vous nous avez dit, évidemment, il y a 200 films de Godard, donc on aura vraiment des découvertes, là, durant ces 2 mois?
Il y a beaucoup de découvertes, parce que les gens ne connaissent de ces 200 films, en connaissent 30. Hein. Tout le reste est à découvrir. Donc je pense que ça va effectivement attirer beaucoup de monde à la cinémathèque, notamment les jeunes, qui sont très curieux de connaître tout ce qu'a fait Godard, et qui, pour le moment, est à peu près inaccessible.
Juste un dernier mot, la créativité cinématographique, la créativité à la façon de Godard aujourd'hui, vous la retrouvez ou est-ce qu'elle est morte?
Elle n'est pas morte, mais elle est rare.
Qui par exemple, l'incarne encore
aujourd'hui? Vous parlez du cinéma français?
Cinéma français, oui. Plutôt du cinéma français, mais si vous voulez aller à l'international.
Non, je pense que pour moi, c'est plutôt en Asie que ça se passe.
C'est en Asie.
C'est en Asie, au Japon, en Chine, que des cinéastes ont une créativité, mais c'est normal. C'est lié à leur situation à eux. Comme Godard en France dans les années 60 était porté par ce qui se passait. Ouais. Et maintenant, ici, il ne se passe plus grand-chose, si j'ose dire.
Ah, quand même. Ah bah, vous y allez franchement.
Et donc, c'est effectivement plutôt en Asie que ça se passe.
Qui a pris le relais. Ouais. Merci beaucoup, Alain Berguela. On vous retrouvera effectivement pour une discussion sur Pierrot le Fou, hein, pendant cette rétrospective sur Jean-Luc Godard à la Cinémathèque française du 8 janvier, c'est-à-dire là, après-demain, mercredi, jusqu'au 1er mars. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce soir. Émilie Mazoyer, meilleurs voeux à vous.
Et bonne année,
de
Nathalie.
Très bonne note de musique.
Oui, de la musique, la santé, l'amour, tout ça. Et pour la musique, ce soir, on reçoit deux femmes, Camille Ducellier, qui est réalisatrice, et Lucie Leguet, qui est une jeune femme chef d'orchestre. Elles ont fait ensemble une web série qui s'appelle Chef. Petit extrait.
C'est vrai que chef d'orchestre, c'est un peu abstrait. On se demande souvent à quoi ça sert, un chef d'orchestre. J'ai même pas mal d'amis qui sont pas musiciens qui me disent « Mais tu brasses du vent, en fait. Qu'est-ce que tu fais concrètement avec les musiciens ?»
Vous devez être les explorateurs de la musique.
Et on va explorer le métier de chef d'orchestre. Et donc, elle ne ressemble pas du tout à Karajan, vous savez, avec les grands cheveux blancs dans tous les sens, un air très menaçant. Pas du tout. Elle est cool comme tout, Lucie Leguet. Et elle vient donc tout à l'heure dans Musique avec Camille Ducellier pour nous parler de son beau métier.
Génial. C'est atypique, on aime ça. Ouais. Donc, on est ravis pour démarrer l'année avec vous. Merci beaucoup, Émilie. Salut à vous, belle émission. Anissa, à demain.
Évidemment, à 18h pile.
Ici même, rendez-vous 18h-20h sur Europe 1 pour écouter cette année encore et pour de nombreuses années, j'espère. Pour écouter Le Monde Changer.
C'était Nathalie Lévy. Europe 1.